Throw it all away. Bon, faut tout foutre en l'air, quoi. En fait, c'est un petit peu l'idée de cette douce chanson. Ouais, elle bonnet. Elle bonneto, comme on se dit en espagnol. Je sais pas comment on dit bonnet en espagnol. Merci, petite Malouine en sucre, pour ce très gentil, cette petite dose de café, ce 14e mois d'abonnement. Merci, Inforéa, pour ce sub aussi de bon matin. Salut, j'espère que tu vas bien. Allez voir l'excellent travail d'Inforéa sur sa chaîne Twitch. Joe, idem, gentil raid de l'ami Joe. Je sais, Camille, j'ai vu raid de l'ami Joe qui streamait ce matin. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous rejoignent avec Joe, qui vous a raconté peut-être ses aventures britanniques, à moins que ce soit un secret. Est-ce que j'en ai trop dit? Est-ce que vous en avez parlé? Je ne dis rien. Et voilà, comment ça va? Bon, on va remettre en place ce stream, rien n'est prêt, comme d'habitude. Je me suis... Ah, le bonnet se dit gorro en espagnol. Ok, gorro. Ok, je vais vérifier parce que j'ai toujours peur qu'un petit malin me dise des bêtises et que je dise des affreuseries. Ouais, c'est beau. Gorro. Si, goros. Pourquoi goros? Non, gorro. Ok, c'est bon, c'est gorro. Si, tengo un muy bonito gorro, je trouve. Ouais. Que je vais enlever dans un instant, c'est juste que j'ai un petit peu froid dans le studio de stream ce matin. Salut, elle est là, merci pour le 12e mois d'abonnement. Comment ça va, vous? Faut rouler les R, oui. Alors, je parle un poquito espagnol, MMG7F, mais je ne sais pas rouler les R. Je n'ai jamais réussi. Je fais des raclements de gorge, mais je ne sais pas rouler les R. Je pense qu'il faut une spécificité anatomique pour ceci. Que je n'ai pas. J'ai d'autres spécificités anatomiques, mais pas celle-ci. Comment ça va, vous? Comment ça va? Merci pour hier, Samuel. Merci, Dionysos. Merci à toi. Oh là là, j'ai tellement aimé ce stream avec Franck Gaston Bide hier soir. Oh là 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 là, ça m'a un peu retourné. Je sais pas si Joe a pu regarder, mais... C'est la magie de Twitch où notamment quand une personnalité vient et qu'elle a le temps de se raconter, de se livrer peu à peu, l'esprit, sinon le cœur, s'ouvre et raconte des choses parfois extrêmement fortes. Ça nous est arrivé notamment avec Oh, je suis fatigué. Notre ami rappeur marseillais qui est venu à la maison, que j'ai beaucoup aimé. Oh là là, faut que je sors d'une sieste. C'est compliqué. Oui, je sors d'une sieste. Non, pas de Joule. Sopra. Soprano. Oh là 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 là. Soprano qui nous a révélé des choses incroyables ici même. Et hier soir, c'était le tour de Franck. Gaston Bide, notamment sur son histoire familiale que je connaissais pas, et sa relation avec sa maman, et c'était extrêmement touchant. Voilà. Ah! Comment ça va, vous? Comment ça va? Je sors d'une sieste, très bizarre, il est 9h55, j'ai déjà fait une sieste. Je me suis levé très très tôt pour lire les journaux, mais je me suis couché très très tard en raison de ce stream. Avec Franck Gaston Bide hier soir, et du coup j'ai vraiment piqué du nez et j'ai dit à Hélène, attends, je vais retourner faire une petite sieste avant le stream, je ne vais jamais y arriver, sachant que j'ai un rendez-vous avec les amis qui s'occupent de ma chaîne YouTube tout à l'heure. Voilà, et ça, je m'en réjouis, quoi. Voilà, donc la petite sieste fait que le propos peut être un petit peu hasardeux en ce début de stream, mais ça va bien s'arranger. Merci Matt Goat pour le Prime, je le prends comme un encouragement. Voilà, merci Tiklem pour le gentil message, merci pour le stream d'hier soir, c'était génial. Je n'apprécie pas particulièrement les films de Franck, mais j'ai passé un super moment. Juste dommage qu'on n'ait pas regardé la bande-annonce de son nouveau film. Ouais, je sais, j'ai oublié. Je sais. J'ai adoré cette blague hier soir. Pour ceux qui n'ont pas la ref, j'étais tellement à l'écoute de ce que disait Franck, et j'ai tellement regardé la bande-annonce de son prochain film, Mélénine, qui sort le 2 février. Février, 2 juin sur Amazon Prime, que j'ai diffusé la bande-annonce pour la regarder avec lui, en espérant que le film soit à la hauteur de la bande-annonce. Et puis, genre 10 minutes après, j'ai dit, bon, allez, on regarde la bande-annonce de Medellin. Et il me regarde, en fait, c'est une blague, parce qu'on l'a déjà. Tu l'as passé tout à l'heure. Non! Si! Ok. Comme je l'avais vu plusieurs fois. Dans les journées précédentes, parce que je l'aime bien cette BA, et en fait je me rappelais pas que je l'avais passé pendant le stream. Oh là là! Donc c'est devenu une espèce de running gag, et toutes les 10 minutes, pendant ce stream qui a duré 2h40, je disais bon, et si on regardait la bande-annonce de Medellin? Bon, ça l'a beaucoup fait rire parce qu'il est très cool. Voilà. Et après, on a fait un joli raid vers l'ami Eric Cheat Meal Hero, c'était super. Voilà, là on est entre potes, il y a Joe qui nous a raid, on a raid Eric Cheat Meal Hero, j'espère que vous avez passé un bon moment avec lui. Et là, ah, la vieillesse te guette. Non, non, Boubou, elle ne me guette pas. Elle est là, en fait. C'est ça le problème. La vieillesse est là. Ah, que ça me fait plaisir de vous lire. Ça me réveille. C'est plus efficace qu'un café. Salut, Étienne. Comment ça va ce matin? Siol, ben bien. Bien, en fait. Je me réveille doucement. Je me réveille doucement. Petite Pocket demande qui est Franck Gaston Bide. C'est un comédien, c'est un réalisateur, c'est un scénariste. Et voilà, en tant que comédien, il peut incarner beaucoup de personnages différents, y compris dans des rôles dramatiques. En tant que réalisateur, il est plutôt sur la comédie, puisqu'il a réalisé 4 films à ce jour. Les Caïras, Pattaya, le troisième, Taxi 5, à la demande de Luc Besson. Et le quatrième, eh bien, c'est celui qui sort le 2 juin, Medellin. Voilà. Et là, pour le coup, c'est des comédies. Voilà. Oui, Medellin est en Colombie, tout à fait. Et bon, moi, voilà, c'est comédie, on se tape le ventre sur la table. Hein. Moi, j'adore. Je kiffe. Je kiffe. J'adore ce personnage. J'adore le monsieur. J'aime bien quand vous me dites que la lumière est belle, que l'image est jolie, que le son est cool, parce que j'ai pas mal bossé ces dernières semaines sur tout ça. Et même mon amoureuse Hélène, hier soir, quand je suis rentré à 23h30 à la maison et qu'elle travaillait encore, m'a dit waouh, la lumière, qu'est-ce que t'as fait? Je dis bah, nouvel appareil de prise de vue, quoi. Ouais, trop, trop content que Hélène me dise ça. Voilà. Le son est magnifique, un peu ténébreux, me dit Mister Crucio. J'adore. C'est qui a fait ce super son? Bah, c'est moi, bien sûr. Bon, j'ai demandé un conseil à Joe sur un truc. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Merci Lislou. C'était l'une des meilleures rencontres, Étienne, que j'ai vues hier. C'était top. C'est en rediff gratuitement sur ma chaîne Twitch. Allez voir l'ami Franck Gaston Bide. Ça va arriver sur ma chaîne YouTube avec quelques heures de retard puisque l'équipe, notamment Mathieu qui s'occupe de cette chaîne, eh bien, sont en chemin pour venir me voir. Je vais leur prendre un petit café avec eux tout à l'heure. Voilà. Ça me fait plaisir. Haha. Bon, ça va vous? J'ai des trucs sympas à vous lire ce matin. J'ai pas fait du tout de tweet pour annoncer ce stream. Voilà. Je comptais un peu sur vous parce que j'ai absolument pas inspiré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme bêtise pour inciter des milliards de gens à venir voir ce stream ce matin? Là, on est en mode collaboratif. Merci Benoît, l'humour, pour ce 15e mois d'abonnement. Merci. Ah, c'est grâce à cause du bonnet. Enfin, grâce au bonnet. Dis que tu invites Tintin. Tintin. Ah oui, Tintin. Parce qu'il y a un autre Tintin. Ok. Venez écouter la qualité du son. Pas mal, pas mal, pas mal, Sarah. Pas mal, pas mal, pas mal. Quelles sont vos propositions? Tu mets Dark Samuel, c'est bon. Ah, ah yes. Mystique. Excellent. Dark Samuel. Winter is... Quelque chose à propos du bonnet. Annonce le visionnage de la bande-annonce. Je vous adore. J'adore cet humour. La bande-annonce. Venez nombreux. Ouais. En mode robe, il est en mode simple, efficace. Quel Twitch pourrait faire pour faire venir des gens nombreux? Venez nombreux. Voilà. Venez comme vous êtes, hein. Comme ça, je vous paierai des hamburgers. Venez, j'ai un bonnet de bain. J'adore. Attends, j'ai bien aimé le Dark Samuel, là. Dark Samuel. C'est très mystérieux, un petit peu. Attends, où est-ce que tu es? Où était ton message? Samuel Tien, futur président. Chut, chut, c'est un secret, ça? Ça, c'est un secret. C'est un secret, c'est ma campagne présidentielle surprise de 2027. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Tout est prêt, mais on n'en parle pas, ok? Ok? On n'en parle pas.
Non, non, non!
On n'en parle pas.
For the last time, no!
C'est un nouveau gadget. Vous n'avez pas fini, vous n'avez pas fini de les entendre, ceux-là. Ouais. Oh my god! Oh! Il se cache quoi sous le bonnet, ok. Un bonnet, une bonnette. Oh, oh c'est technique, c'est la Bukowski. Un bonnet, une bonnette, un homme et un son. Ouh, putain, c'est pointu, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Oui, on va parler de Clarisse Agbenienou, bien sûr. Phoenix Ox, pour moi, c'est un incontournable. Hein, le palmarès dingue de cette incroyable judoka que j'adore. Monsieur Chibre sort couvert, c'est technique, poloche sans gêne, mais j'adore. Dopch, merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement. C'est prévu à quelle heure le cambriolage? Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ah, Dark Samuel, c'est une ref de Squeezie? Ok, d'accord. Le premier stream de The Edge, guitariste de U2, j'ai la ref Amadeus. Nageons ensemble, c'est mystérieux. Ah ouais. Ah ouais, c'est mystérieux, ouais. Surprise. Merci Texto Rexel pour le gentil message sur le stream d'hier soir, je me suis régalé aussi. Dis que tu prépares un braco en live. Ouais, comme ça on va lancer le stream et dans un quart d'heure je sors avec les menottes dans le dos. C'est malin. Libération Le Figaro, blanc bonnet et bonnet blanc, venez vérifier avec nous. Pff, joli, ah vous êtes fort. Même le bonnet M, ok j'apprécie. Le bonnet Étienne. Ah remarque, on peut faire une photo avec le bonnet, hein. J'ai envie de faire une vieille blague de daron. En fait, vous me donnez envie de jouer avec le bonnet, genre venez voir, j'ai mis mon bonnet M. Enfin, une vieille blague toute pourrite comme ça. Hein? J'ai envie de partir sur le bonnet. Question pour un bonnet. Hein? Venez voir, venez, j'ai mis mon bonnet M. Le roi de la bonnette vous parle avec son bonnet, vous êtes formidable. Bonnette, c'est technique. En fait, c'est surtout les journalistes radio qui connaissent le mot de bonnette, hein, qui est ce truc-là, le truc en mousse là. J'aime bien ça. Hein? Quoi? En bonnet du, oh, en bonnet du, en bonnet du forme. Oh, Zpic nous propose en bonnet. Du forme. Oh là 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 là. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Ah, oh, c'est bon. Oh là là, une bonnette, c'est ça, c'est le truc en mousse qui protège le micro. Ah oh ouais. Question pour un bonnet. Oh, vous êtes fou. Pourquoi j'ai un bonnet? Bonnet et belle moustache. J'ai tout rasé. Ah oui, c'est drôle ça. Du bonnet. Encore plus ancien. Bonnet and Clyde. Oh là 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 là. En bonnet difforme. Oh là 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 là. Vous êtes trop fort. Un bonnet. Très bien. Le bonnet tienne. Mais pourquoi ce bonnet? Parce que j'ai froid en fait. Y a-t-il Paris qui est tout anxieux, qui est tout énervé? Mais pourquoi ce bonnet? Ça fait un peu caricature de jeunisme, je trouve. T'as pas besoin de ça. En fait, c'est juste parce que j'ai froid. C'est tout. Parce que je suis arrivé en studio, il faisait froid. Il fait ça caille sa mère à Paris. Là, il fait moins 15 en fait. Donc, merci pour la caricature de jeunisme. Mais c'est juste parce que ça caille en fait. Comme j'adore. Allez, on va faire un tweet. Allez, c'est parti. Je prends mon ordinateur à Twitch. J'ai un ordinateur qui est spécialisé en tweet. Bougez pas. Est-ce que je prends mon ordinateur spécialisé en tweet? Je répète. Est-ce que je prends mon ordinateur spécialisé en tweet? J'adore ce truc. Ah oui, on met des moyens sur ce stream. Tout à fait. Ordinateur spécialisé en tweet, viens ici. Yeah, baby. C'est parti. Oui, je sais, ça monte en puissance, ça monte en puissance. Ah, la matinée est bonne, Étienne. Oh là là. Oh là là. Mais c'est presque trop d'inventivité et d'intelligence. Alors, c'est parti, tweet. Tiens, on va faire une photo. Voilà, tiens. Avec le monde là, que ça fait sérieux là. Tiens, le café. Hein. Là, vous avez les coulisses de la créativité là. Le doigt sur la lèvre, c'est toujours un peu mystérieux. Le doigt comme ça, c'est un peu mystérieux. Ah, sur le menton comme ça. Un peu rodin. Un peu rodin. Rodin. Est-ce qu'on va nous voir sur la photo? Oui, bien sûr. Cheese, 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 cheese. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en fais une sérieuse. Cheese. Je prends la meilleure. J'espère que vous avez été bon, hein. Ouais, elle est cool. Ok, elle est cool. Elle est cool. Alors ça, elle est belle. On met un petit filtre pour être encore plus beau gosse. Ouais. 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 Ce stream n'a plus aucun sens. C'est tout ce que j'aime. Ok. Allez, on va tweeter en direct avec mon téléphone spécialiste des tweets, parce que il ne sert qu'à ça. Et on va mettre, viens voir l'info en bonnet M. Oh là là, mais c'est presque trop d'humour, ça, hein. Twitch. Ça, c'est moi. Point TV slash Samuel Etienne. Viens voir l'info. Combien il y a de N à Etienne? Viens voir l'info en bonnet M. Et je mets l'adresse de la chaîne twitch.tv slash Samuel Etienne. Et ça rime. Tac. 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 Et je clique sur le lien pour vérifier que j'ai bien mis sur ma chaîne et pas ailleurs, quoi. Oh. Ah, on enlève cet ordinateur.
Oh, reste là, Tintin. Reste là, Tintin. Reste là. Reste là. Il est bien cadré, là.
Reste là, Tintin. On peut la refaire, j'avais les yeux fermés. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Trop tard, trop tard. Merci Loulou. Merci Loulou 722 pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bon, on va peut-être faire un petit sommet rapide, 22 minutes, on y va, let's go. Hein. On n'est pas là pour tortiller du cul. Hein. On est là pour lire les journaux. Hein. Vous êtes prêts? Ouais. Je vois qu'on s'amuse bien ici. Bah oui, c'est l'initiale. On n'est pas là pour. Hein. On n'est pas là à la télé. Hein. On n'est pas là pour. On est là pour s'amuser, hein, pour passer un bon moment. Hein. Nora Joe, j'arrive en retard aujourd'hui, ça n'est pas acceptable.
Yes.
Exactement. Donc tu es prié de quelle peine nous allons pouvoir t'infliger. Tu es prié d'aller manger deux chocobons, s'il te plaît, et de revenir avec de meilleures intentions. Merci beaucoup. J'en peux déjà plus du buzzer, me dit Kinema Live. Oh, c'est dommage. Oh, c'est con.
N-O.
Bon, on y va? Ou pas? Petit sommaire? Ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Sommaire. Est-ce que vous me donnez un oui? Est-ce que vous me donnez un...
Oh, yes.
Un...
Yes.
Est-ce que vous me donnez un...
Yes, 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 yes.
Est-ce que vous me donnez un...
Yes.
Pour le sommaire, est-ce que c'est un...
Yeah, baby.
Oh, c'est mon préféré celui-là. Yes, baby, let's go. Alors, il y a un gros suspense. Parce que je n'ai pas encore branché l'iPad. Et donc, on va découvrir si ma connectivité, ma connectature, comme disent les spécialistes de la connexion, a fonctionné. Parce qu'en général, je fais les tests avant. Et là, je n'ai pas eu le temps parce que je sors d'une sieste. Je sais, il est 10h11, ça n'a aucun sens. Attention, 3, 2, 1, suspense 1. Tolérable. What? Ça marche. Formidable. Ok. Ok. Prêt? Ok. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ce matin dans la presse? Je vous ai pas mis 1000 articles de côté. Je vous en ai mis pas trop parce que je vous ai fait une sélection d'excellents articles et d'actu extrêmement intéressant pour qu'on prenne un petit peu le temps. Let's go. Logement, les raisons d'une crise profonde. Et là, les habitués vont me dire, oh là là, Samuel... c'est au moins le troisième papier que tu nous lis en l'espace d'une semaine sur la crise du logement. Oui, mais je trouve que c'est un sujet compliqué, important, ça nous touche au quotidien, et que le dossier du Monde est extrêmement clair. Alors je dis...
Well, yes.
Je dis yes, on va lire ce dossier. Dans le Monde, donc, sur le logement. Mixité sociale, l'école privée se fait prier. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Plein d'articles ce matin dans la presse, dans La Croix, dans Le Figaro aussi, au moins, et dans Libération. Sur quoi? Sur le ministre de l'Éducation nationale. Bon, vous ne le reconnaissez pas ici parce qu'on n'a que la moitié de son visage. Libération, ils n'ont plus d'encre. Ils ont mis la moitié du visage du ministre, c'est fou. Pape Ndiaye qui présente aujourd'hui, on est sur l'actu les gars ici, hein, son plan pour lutter contre la ségrégation scolaire, s'il veut impliquer le privé, voilà, c'est, en gros c'est pour plus de mixité à l'école, de mixité sociale, hein, vous le voyez, eh bien il veut impliquer davantage donc, le privé dans cet objectif, et pourtant il ne souhaite pas dans le même temps braquer les catholiques, numéro d'équilibriste que nous raconte Libération. Plusieurs dossiers ce matin dans la presse là-dessus, mais on voit celui de Libération me semble le plus clair et le plus complet. On est dans le sommaire, donc on va à l'essentiel, mais on va débattre de tout ça. Regardez le gros dossier de Libé là-dessus, le privé grondé mais pas puni sur cette question de la mixité sociale. Peut-être que vous connaissez bien ce sujet, peut-être que vous êtes enseignant, peut-être que vous êtes écolier, peut-être que vous êtes parent avec des enfants dans le public ou dans le privé, ou les deux si vous avez plusieurs enfants. On va lire ce dossier qui est vachement intéressant. Je vous en ai parlé longuement hier parce que ça me semblait très important de rendre hommage à ce jeune journaliste de 32 ans, Arman Soldin, qui a trouvé la mort en Ukraine dans un bombardement russe. On lui a longuement rendu hommage hier. Je vous propose de le faire à nouveau aujourd'hui, puisque hier on est allé lire un très bon papier de West France, qui était le plus complet sur qui était ce jeune homme et sa carrière. Et Libération publie un autre papier ce matin. Voilà. qui ne nous apportera pas beaucoup plus d'infos, mais sera l'occasion de saluer à nouveau sa mémoire. Alors quelqu'un dans le chat me disait, dis donc Samuel, j'espère que quelqu'un qui me disait, qui estimait que les médias ce matin n'avaient pas mis assez de lumière sur le sixième titre de championne du monde de la judo 4, Clarisse Agbenienou. Moi je suis totalement impressionné par cette championne depuis longtemps. C'est une femme incroyable. Elle a en plus j'ai la chance de l'avoir rencontrée et elle dégage quelque chose de très très fort, à la fois d'humanité, de gentillesse, de douceur et en même temps avec un esprit de compétition de fou, bien sûr. Je suis très admiratif de cette femme. 6 fois en or, elle est au plus haut, et les JO qui arrivent, on lira ce papier. C'est bien en plus parce que ces derniers temps, on a surtout parlé d'elle pour une sombre histoire de... La tenue que mettent les judokas. C'est un nom spécial. Il y a les judokas ? Non. Alors, moi aussi, j'aurais dit kimono. Mais dans l'article, j'ai trouvé un autre mot qui semblait plus spécifique ce matin. Voilà, judogi, yo-yoman. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on dit judogi, on dit judogi, je pense. Comment on prononce, en fait ? Je me suis posé la question ce matin parce que je ne suis pas judoka. Voilà. Kimono, je pense que c'est le terme générique. Et pour le judo, c'est judo-gi. Voilà. Matt Gauth me dit qu'on dit gi. Ok, merci. Non, c'est pas le peignoir. Voilà. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, il y a une sombre histoire de kimono de judo-gi, donc, puisqu'elle voulait porter lors des compétitions un kimono de la marque qui la soutient. La fédé n'était pas d'accord, mais elle disait, ah oui, mais alors... comment il s'appelle, Teddy, c'est Teddy Riner, c'est ça, lui il le fait bien. Alors voilà, c'était là on est sur autre chose, on est sur ces immenses résultats sportifs. On est dans une séquence lancée par l'exécutif, le président Macron, pour manifestement sortir de la séquence de la réforme des retraites. Donc on fait feu de tout bois avec plein de propositions de loi sur le numérique, sur qu'est-ce qu'il y a sur la fiscalité, on en a longuement parlé hier, sur peut-être l'immigration dans les prochaines semaines, on va voir. Et là, tiens, c'est intéressant ce que dit Flavien. Kimono, c'est un habit de soie au Japon. Au Japon, on dit judogi pour le vêtement de sport. Excellent. Merci à toi. Et donc, dans cette nouvelle séquence que l'exécutif essaie d'ouvrir, il y a la mise en scène des atouts de la France sur un plan économique et industriel. C'est la une du Figaro ici, puisque le chef de l'État consacre une partie de cette semaine, notamment les prochains jours, à mettre en valeur le succès de sa politique de reconquête industrielle. Et il est vrai que les chiffres nous disent que les investisseurs étrangers ont encore plébiscité la France l'an dernier. Si mes souvenirs sont bons par rapport à la lecture de ce papier qu'on lira tout à l'heure, eh bien on est le pays européen qui attire le plus les capitaux étrangers. Et le président Macron explique que c'est en partie grâce à la politique qu'il a mis en place, notamment sur le plan fiscal et autres. Donc on lira ça, les bonnes nouvelles sont rares dans l'actualité. Celle-ci me semble être une bonne nouvelle. Et ça, une bonne nouvelle ça, hein ? Ça ? Merci El Bilouilleur pour ce 16e mois d'abonnement. Merci Inforea pour l'abonnement offert à Barnac. Et merci Inforea pour... Oh, t'arrêtes pas. Pour l'abonnement que t'as offert à The Jason. Merci moi aussi Dani pour le Prime. Merci. Oh, j'avais pas vu tous ces subs. Merci moi aussi Dani. Merci Energix pour le 21e mois. Merci Loulou722 pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Zelda. C'est Julien Chiez qui est venu dans la dernière hebdo Étienne avant que je parte en vacances, qui nous a expliqué que c'était le jeu sans doute le plus attendu, le jeu vidéo le plus attendu de l'année. Tu vois, c'est précommandé pour moi, nous dit Kinema Live dans le chat. Zelda, prochain succès en vue pour Nintendo. Tout le monde s'accorde à dire que non seulement c'est très attendu, mais que ça va être un grand succès. Donc Zelda, le titre exact, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, et avec le groupe Nintendo, le groupe japonais qui va commercialiser vendredi. C'est demain, oui, comme le cri Sitam Regel dans le chat. C'est demain. Oui, c'est demain.
Yes.
Give me a Y. Give me an E. Give me an S.
Exactement. Yes. Yes, exactement. C'est demain. C'est demain. Ça sort demain. Je crois que cette nuit, il y aura des. Ouais, ce soir à minuit, dit Lebrun, cette nuit, il y aura des magasins, quelques magasins ouverts en France pour les plus pressés. Voilà. Ah, quelqu'un me dit que sur Twitch, on dit Zelda Totk. Ah, Tears of the Kingdom. Totk ou Teotiki, Teotika. Oh, bon, on dira Zelda. Donc, voilà. Donc, voilà. Julien semble avoir déjà joué à une version bêta, Julien Chiez. Quasiment terminé, quoi. TOTK. Ok, on dit TOTK ? TOTK ? Vous préférez ? Ouais, mais on va encore m'accuser de jeunisme, non ? C'est-à-dire, si je dis Zelda TOTK et pas Zelda Tears of the Kingdom, hein, on va peut-être m'accuser de jeunisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'hésite un peu. Je sais pas trop. En fait, toujours peur de fâcher les gens, vous savez. C'est les réseaux sociaux, faut faire attention. Ah. Oui, le dernier Zelda. C'est mieux en entier avec l'accent de fou. Yes, exactement. Ouais. T'es au DK ? Non, je suis pas au DK, c'est du vrai café. On lira ça. On ira. Donc, La Croix, vous voyez, consacre sa une également à cette question : comment favoriser la mixité sociale à l'école ? Mais on lira le dossier de Libération là-dessus. Oh, vous êtes gâtés. L'e-sport, une discipline en quête de sens. Alors moi, j'ai trouvé ce papier, ce dossier de deux pages vraiment passionnant. C'est un peu un instantané, une photo de l'e-sport aujourd'hui en France. Voilà, un panorama assez complet, en tout cas pour un public généraliste. Peut-être que vous connaissez ça de façon beaucoup plus pointue. Mais moi, j'ai trouvé que c'est un très très bon papier. Donc peut-être qu'on va l'amender, qu'on va le compléter, qu'on va l'enrichir avec vos remarques. Mais je trouve que ce dossier sur où en est l'e-sport en France, c'est juste passionnant. Ouais. Ouais. Matt est fou. La Croix qui parle d'e-sport. Oh là là. Oui. C'est un film de La Croix sur deux pages. Page 18, page 19. Télécharger La Croix, ça coûte que dalle en téléchargement. L'article est vraiment sympa. Mais je vous le lirai bien sûr tout à l'heure. El Bidouilleur, comment est-ce ? Merci pour le 16e mois d'abonnement, que dis-je. Merci beaucoup. Ouais. 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 Qui a écrit cet article ? Benjamin Bousquet. Attendez, je... Ok. Ah oui, je suis d'accord. Il y a PV Nova Musique. PV Nova Musique. PV... Le PV Nova Musique. Le vrai. Attends. Le vrai. Il y a PV Nova qui est là. What? Oh, je suis trop content. Les amis, regardez qui est. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Oh, le vrai de vrai. Oh, ça me fait trop plaisir. Hop, regardez, je suis parti sur la chaîne. Je te suis même pas. Oh, c'est fou ça. Bon, bah, c'est fait. Bon, comme ça, je verrai quand tu stream. Musicien, épicurien, philanthrope, linétaphile avec un Y. Mais Kezako ? Mais Kezako ? En fait, j'ai vu le pseudo de PV en lisant son commentaire. La Croix, faut pas les sous-estimer sur les sujets culturels. Ça bosse bien là-bas, je suis d'accord. C'est un excellent journal, notamment sur la culture. Alors, quel est ce mot que je ne connais pas ? On se met en mode étoile, Rayou, nuit de la culture, Kezako, linétaphile. Let's go. Évidemment, vous savez déjà, vous êtes des champions avec un Y, linétaphile. Alors, linétaphile, moi, je cherche toujours une bonne ref, quoi. Ah, ça envoie à lunettes. Un collectionneur de lunettes. Vous le saviez, vous? Oh là là, incroyable. Collectionneur de lunettes de vue. Ah, vous le saviez. Ah, c'est génial. PV, tu as fait ma jeunesse sur YouTube, dit Kinema Live. Mais il est jeune, PV, non? Ah, ou alors Dougie proposait « Il n'aime que les filles » qui s'appellent Lynn. Lynn est ta fille. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Trop mignon. En fait, c'est plus. Ah, alors PVE précise, c'est plutôt lunettes de soleil par ici, mais j'ai pas trouvé le mot. Trop classe, trop classe. MTH me dit, il est là depuis 10 ans. Un truc comme ça. Ah oui, sur Internet, 10 ans, c'est beaucoup. Trop bien, en tout cas. Un vieux briscard, ok, donc il a 70 ans. Vous avez fini vos bêtises. Regardez ce jeune homme. Hein. Tiens, on va aller voir une vidéo. Vous voyez bien que ce jeune homme n'a pas 70 ans. Hein. Ce jeune homme a tout au plus 14-15 ans. Hein.
D'avoir ce côté très feutré, finalement.
Hein. 15 ans, ce garçon.
Voilà, vous saurez que maintenant, quand vous arrivez à pas feutrer dans une pièce, c'est quand vous faites le même son qu'un piano sur lequel on a mis un feutre, donc une petite épaisseur de tissu assez rigide, finalement.
J'adore cette voix.
Alors, j'en ai manqué plein. Oh,
les lunettes à droite, je vois. Regardez.
Donc, je disais.
Ah, vous pouvez pas voir. Attendez,
bonjour,
je m'enlève.
Captain Brocoli, salut.
Regardez Kelly, les Mick, lunettes
salut,
à droite.
Nookinook, salut Arti, salut Guillaume.
Salut.
Hello.
Vous avez vu
Minimism.
C'est génial.
Salut.
T'as un présentoir à lunettes chez toi.
Ton abonnement qui fait très plaisir.
Trop beau le
salut,
studio.
Salut Sam.
Oh.
Salut Janvier Don.
Salut
Flemmard.
Trop mignon.
Salut Samba. J'espère Flemmard que tu es au fond de toi.
Oh, les guitares et tout. Oh là là, waouh, le studio, c'est génial, super. Il est opticien, quoi. Non, il fait de la musique. Vous êtes bête. J'adore. Il est beau en plus. Ouais, merci beaucoup. Ah, tu parlais de PV, pardon. 37 ans, donc 15 ans sur YouTube. Bah, tu vois, c'est ce que je disais, 14-15 ans, exactement. C'est ce que je disais, exactement. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous, c'est super gentil. Merci beaucoup. Voilà, je regarde pas plus, je regarde pas plus le replay de PV, parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas le droit de streamer un autre stream. Hein, on est d'accord. Hein, une fois, je vous avais posé la question, je sais plus, j'étais un jour, j'étais en train de tomber en pamoison devant Zen, parce que je trouve que le programme est quand même totalement délirant. Je me dis, ah, j'ai trop envie de le regarder, on le regarde ensemble. Et on m'a dit, ah bah non, tu peux pas streamer un autre stream. Hein? Ah, sauf si tu demandes un accord, me dit Mister Farfanton. Oui, voilà. Si tu peux, mais c'est pas cool. Hein? Bah, moi, je crois qu'en fait, c'est comme. D'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, c'est comme si tu streamais un programme télé, en fait. Un programme télé, je crois qu'il y a une streameuse française récemment qui a été ban pour avoir streamé du M6, hein, vous avez vu l'info ou pas? Donc ça, c'est dans les conditions générales de Twitch, hein, dans les petits caractères, hein, vous ne pouvez pas streamer un contenu audiovisuel sans l'accord, en fait, du créateur, quoi. Voilà. Donc moi, je me l'interdis, quoi. Ouais, c'est du React. Bah oui, mais le problème, c'est que le React, on est dans une zone grise, en fait, où, qui est en train de s'éclaircir de plus en plus, d'ailleurs. Vous avez vu cette streameuse? Ah voilà, OP, c'est ça. Un nom comme ça. OP. OP Crotte, c'est ça? OP. Ouais. Oui, vous voyez? Donc, voilà. Ah oui, sauf s'il y a accord, bien sûr. Quelqu'un me donne l'exemple d'Orti qui a streamé le stream d'Antoine Daniel au moment d'insuline et nicotine. Bien sûr, sauf s'il y a accord, mais ça c'est autre chose, bien sûr. Je suis en train de vous lire là-dessus. Tout le monde le fait, pourtant il supprime juste la VOD d'Itsuka. Ah. Il faudrait faire un stream qui stream un stream qui stream un stream qui stream un stream, propose Tone 2. Ouais. Je suis en train de vous lire sur ce sujet là, ça m'intéresse. Oui, la TV commence à réagir, voilà. Ouais. Oui, c'est en train de se resserrer. Hein, voilà. En fait, longtemps, les chaînes françaises en fait s'en fichaient un petit peu parce que, un, la plupart n'étaient pas au courant, deux, comprenaient pas forcément Twitch, trois, estimaient que ça concernait pas beaucoup de vues, quoi. Mais en fait, sur un plan purement légal, dès qu'une chaîne de télé, par exemple, dit à Twitch, attendez, là, il y a eu stream sur un contenu qui est à nous, qui nous a coûté de la thune à faire et tout, c'est sanction directe, en fait. Hein. Voilà. Comme le dit Surgical Citron, tous les streamers qui font des reacts ont l'accord de chaîne télé. Voilà. Alors tous, non. Je peux te donner plein d'exemples sur des programmes télé que j'ai vu streamer sans l'accord. Je connais un peu c'est l'autre univers. Je peux vous dire que pour l'essentiel, pas forcément sur des grosses chaînes, mais le react, c'est sans l'accord des télés. L'accord de télé. Hein. Quand Jean Massier, par exemple, lui, stream react à une émission politique ou parce que c'est produit par l'État comme une allocution présidentielle par exemple et que là c'est accessible à tous ou alors si c'est produit par exemple une émission ou une interview présidentielle produite par TF1 et France 2, là il y a une autorisation à demander et même il y a des droits à payer quoi. Je sais parce que je l'ai fait aussi sur Twitch donc, mais pour quelques-uns qui le font on va dire dans les règles, bon, je pense que l'immense majorité encore aujourd'hui le font sans demander l'autorisation. Et à un moment, il va y avoir un durcissement. Il y a des chaînes qui vont commencer à se rendre compte qu'il y a quelque part, c'est pas possible. Quoi. Sauf si, comme le dit Chat Noir, les chaînes de télévision ont à gagner à laisser le react sur Twitch. Ouais, en estimant que ça donne de la publicité à leur programme. C'est le calcul de France Télévisions, par exemple, et de France 3, et de Fremantle, la boîte de production, qui laisse Étoile streamer Question pour un champion, en estimant, et ils ont raison, que ce que fait Rayou avec la nuit de la culture en partant de Question pour un champion est un excellent programme et deux un truc qui met en avant de façon positive Question pour un champion quoi. Donc là par exemple c'est pas une autorisation express, c'est pas un contrat, c'est pas signé et tout, mais France Télévisions est au courant de ce que fait Étoile et en gros dit de façon off mais pas contractualisé ok c'est ok quoi. Là, pour le coup, c'est un comportement intelligent de France Télévisions. Quoi. Mais alors, c'est un sujet, là. Je suis en train de vous lire, du coup, ça m'intéresse. Oui, avec Franck Gastambide d'hier. C'est en replay avec Iso sur ma chaîne Twitch. 2h40 de bonheur. Est-ce qu'on a le droit de streamer un replay de France Télé, demande Aurel Segara. Sur le papier, sur un plan légal, non. Tu peux le tenter. À ma connaissance, France Télévisions a jamais demandé à Twitch de ban un streamer qui le faisait. Après, c'est voilà. Normalement, il faut demander l'autorisation. Quoi. Hein? Comme le dit Azazu, propriété intellectuelle, droit à l'image. Je trouve pas ça choquant que ce soit interdit. En fait, les programmes dont on parle sont des programmes qui ont été produits par des gens qui ont travaillé, hein, des journalistes ou des animateurs, des gens de télévision, des techniciens. Donc il y a eu du travail, il y a eu de l'argent, et quelque part s'accaparer ce travail pour le monétiser derrière, parce que après ça peut donc c'est de la création de valeur sur une chaîne Twitch par exemple qui peut donner lieu à des abonnements, à des subs. Dans un monde normal de droit et contractuel, ben en fait il faut demander l'autorisation ou payer pour pouvoir utiliser ce contenu. C'est un truc classique en fait. Alors Étoile, est-ce que Étoile a l'autorisation pour Question pour un champion? Étoile a un accord tacite en fait. Voilà, c'est pas un deal entre Étoile et France Télévisions. Il n'y a pas eu accord demandé, il n'y a pas eu accord donné, il n'y a pas eu contractualisation de ça. C'est juste que France Télévisions sait que ça existe et trouve ça bien et donc dit rien. Vous voyez ? Donc c'est pas. Voilà. Même les programmes de service public, bien sûr. Bien sûr. Et Swoosh fait une très bonne remarque, mais il y a plein de gens qui ne regarderaient pas l'émission si ce n'était pas en stream. Alors pourquoi bloquer ? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça peut faire de la publicité. Si le stream est positif, ça fait de la bonne publicité au programme en question. Après, par exemple, sur une chaîne privée comme M6, dans le programme, il va y avoir des encarts publicitaires. qui permettent de générer de la richesse pour produire le dit programme. Est-ce que le streamer lui passe les spots publicitaires en question? C'est pas sûr. Tu vois, ce genre de petites questions, par exemple. Bon, j'ai lancé un débat sans faire exprès, c'est vachement intéressant. En tout cas, moi, je suis très content que France Télévisions laisse Étoile faire, parce que c'est un excellent programme. Rayou fait un super taf, quoi. Et donc, voilà, mais ça c'est intelligent. Après, c'est le choix de France Télé, quoi. Et de Fremantle, qui est le producteur. Parce qu'il y a deux acteurs, là. Hein. Le détenteur des droits de questions pour un champion, des droits intellectuels sur QPUC, ça n'est pas France 3, c'est Fremantle. Donc, il faut pas oublier... Quand on parle des chaînes de télé, la plupart du temps, derrière tous les programmes dont on parle, il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas produits en propre par les chaînes de télé, hein, mais qui sont produits par ce qu'on appelle des sociétés de production, des boîtes de prod, comme on dit. Et la propriété intellectuelle du programme, en général, elle est du côté de la boîte de production. Voilà. Fremantle, par exemple, c'est pas une boîte française. Hein. Je ne sais plus d'où viennent les capitaux, le siège était à Londres. Et donc, en gros, pour revenir à Étoile, par exemple, la décision, elle appartient pas qu'à France Télévisions, elle appartient surtout à Fremantle, qui est une société internationale. Donc à un moment, une boîte qui est dans le monde entier, dont le siège est basé à Londres, qui veut strike un programme sur Twitch France, je pense que ça leur pose aucun problème, quoi. Je vous lis, puis je vais vous lire quelques articles aussi. Quelle heure il est? 10h36, il faut que j'accélère un petit peu. Tu vois, par exemple, Néo répond à ceux qui disent « Ah oui, mais alors, c'est pas normal. Pourquoi les chaînes de télé ne laissent pas les streamers faire ce qu'ils veulent avec ce contenu ?» Et il y a Néo qui écrit « Pensez-vous que Domingo apprécierait qu'on réacte ou qu'on stream en simultané Popcorn, par exemple, ou que la télé utilise ses images ?» C'est un renversement de regard que je trouve intéressant. Azazu écrit « Je suis graphiste et voir certains de mes projets utilisés gratuitement me rend fou. C'est très compliqué pour se défendre, c'est un enfer. » En fait, c'est la question de la propriété intellectuelle, en fait. Hein. Alors peut-être plusieurs à me dire « Bah oui, mais à partir du moment où c'est fait sur France Télévisions, par exemple, et donc c'est le service public, bah on a le droit, parce que le service public, c'est à nous. » Bon, c'est une réflexion qui est intéressante. Il y a Bon Café qui dit « Bah du coup, c'est en partie financé par les Français. » Alors le « en partie » est important, puisque effectivement, les programmes de France Télévisions sont en partie financés par de l'argent public. Hier, de la redevance, mais elle a été supprimée aujourd'hui d'une part de la TVA, mais c'est en partie, comme tu viens de lire. Il y a de la publicité aussi sur France Télévisions. Moins qu'avant, depuis une réforme, mais il y en a toujours. Donc, toi-même, tu dis en partie. Donc, il y a aussi de l'argent qui vient de la pub. Et encore une fois, ça n'est pas, l'interlocuteur n'est pas que la chaîne. C'est aussi le producteur du programme qui, bien souvent, est un acteur privé, une société de production qui peut être, elle, qui peut être... D'abord, c'est les capitaux privés, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, en plus, ils sont, c'est souvent des boîtes internationales. Vous voyez, donc là, c'est plus une question de service public. Là, les droits intellectuels de questions pour un champion appartiennent à Fremantle, par exemple, et pas du tout à France Télévisions. Salut Kik, merci pour le message. T'inquiète, on va lire les journaux dans un instant. Désolé, on est parti sur on a fait un petit pas de côté là. Bon, on va peut-être faire le sommaire. Vous en pensez quoi? On y va? En tout cas, c'était un débat intéressant. On y va? Let's go pour le sommaire. Est-ce que j'ai un yes pour le sommaire? Est-ce que j'ai un yes pour le sommaire? Ah non, le sommaire on l'a fait, on va lire les journaux. Non, le sommaire on l'a fait en plus. Il fait tout. Ah, 1h30 pour avoir le sommaire. D'abord, on stream depuis 51 secondes et le sommaire, on l'a fait. On l'a fait ?
Oh, yes.
On y va, on y va ?
Yes.
Est-ce que j'ai pas bien entendu, on y va ?
Yes.
Excusez-moi, j'ai pas... Vous avez dit quoi ?
Yes.
Pardon, j'ai...
Yeah, baby.
C'est celui-là que j'attendais. J'adore. Ok ! C'est parti ! Bam ! Tac, 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 tac. Allez, c'est parti ! Boum ! On a fait le sommaire et maintenant on va lire tous ces journaux, sachant que pour ceux qui nous rejoignent, on a un article sur l'e-sport en France dans La Croix, on a un article dans le Figaro Echo sur la sortie de Zelda, le dernier Zelda, demain, enfin ce soir minuit, sur l'attractivité industrielle et économique de la France, sur la nouvelle titre de championne du monde, 6e pour la judokate française Clarisse Agbenienou, que j'adore. Un hommage à nouveau au journaliste français Arman Soldin, qui est mort en Ukraine, on l'a déjà fait hier. Une réflexion sur la mixité sociale à l'école grâce à Libération. Et on va commencer avec Le Monde, je vous ai fait un sommaire à l'envers, avec les raisons, un très bon dossier sur les raisons de la crise profonde du logement. On y va ? On y va ! Non, on n'y va pas, Jean-Marc, dernier sub. Merci Andrea Léo pour le 8e mois. Xavier Thiel pour le soutien, merci pour le 3e mois. Kaliki, merci pour le 13e mois, j'avais pas vu. Talino Creroux, comment vas-tu? Merci pour le 19e mois. Anna Bananas, les fidèles sont là. 21e mois d'abonnement. Nora Jo, merci pour l'abonnement offert à l'ami PV Nova. Gaspard Réal, merci pour le 8e mois d'abonnement. Portachar, merci pour l'abonnement. El Bidouilleur, je te remercie tout à l'heure, je le refais. C'est parti. Crise du logement. Crise du logement. Je sens que je vais enlever le... Oh, tu as raison. Gabmi nous dit... J'avais l'intention de le faire. D'ailleurs, je vais enlever le bonnet. Hop. Donc, vous voyez, je ne me suis pas rasé la tête et je ne suis pas allé en Turquie pour m'en remettre. C'est juste que j'avais froid. Il fait un peu moins froid. Quelqu'un me dit... Je remonte sur ton message. Mais il n'y a rien sur le maire de Saint-Brévin. Gabmi. Dans le sommaire, rien sur le maire de Saint-Brévin. Non. Parce que rien dans les journaux papier téléchargé ce matin sur la maison et les voitures incendiées du maire de Saint-Brévin. Pourquoi ? Parce que l'info est tombée trop tard hier soir et un journal papier, et ce que je télécharge ce matin, c'est la version numérique des éditions papier, eh bien, en fait, ça, à un moment, ça part à l'imprimerie le soir. Donc, à un moment, tu ne peux plus rajouter des infos. Donc, il n'y a rien dans la presse ce matin. Évidemment, si je tape Saint-Brévin là maintenant sur Google Actu, je vais trouver des articles de ces mêmes rédactions, du Monde, de Libération et autres, sur cette histoire. Et tu as raison, je pense qu'il faut en parler, et tu me le rappelles. Alors on va commencer par ça. Voilà, de courant de l'histoire. Alors Saint-Brévin, hop, actualité, regardez, plein d'articles sur 20 minutes, sur le Huffington Post, sur Libération, qui a fait un tweet hier, sur Ouest France. Alors Saint-Brévin, c'est en Loire-Atlantique, donc Ouest France serait formidable, mais le contenu de Ouest France n'est pas accessible aussi. Normalement, il n'est pas accessible gratuitement. Et là, l'article l'est. Je pense qu'ils ont libéré les droits sur cet article. Ok, alors lisons-le. Et on lira peut-être celui de Libé également. Qu'est-ce qui se passe ? L'histoire. Démission du maire de Saint-Brévin, le résultat d'un gâchis orchestré par une minorité. En Loire-Atlantique, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, président de la communauté de communes sud-estuaire, Yannick Moret, c'est lui, a annoncé, je crois qu'il est médecin, c'est pas lui, hein, ça c'est quelqu'un d'autre, a annoncé sa volonté de démissionner au 30 juin 2023. Fin mars, un incendie criminel a endommagé son domicile familial. Là, vous avez la réaction de Roche Hérault, qui est le maire de Saint-Viaud et vice-président de Sud-Estuaire. Là, vous avez une photo. Merci Martin, meilleur DJ du monde sur Twitch, pour le raid à l'instant. On est en train de commencer la revue de presse, tu n'es pas en retard. Merci à tes viewers. Et on commence par cette histoire du maire de Saint-Brévin qui a démissionné de ses fonctions. Ça, c'est les voitures de la famille et la maison du maire qui a été incendié. Par qui ? Eh bien, voilà. Donc là, c'est une réaction d'un élu de la région. Je pense qu'on va aller voir l'article de Libé, ça ira plus vite. Et effectivement, la famille dormait quand le feu a pris. C'est un truc de réax, ça. Je reviens à l'origine. Voilà. Ça, c'est l'article que Libé a tweeté hier. Projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Saint-Brévin. Donc c'est une histoire sur fond d'immigration. Le maire démissionne après l'incendie de son domicile. Là, vous avez le maire en question, qui est donc médecin. par ailleurs, médecin dans la commune, je crois, devant son habitation incendiée et ses voitures. L'image fait quand même froid dans le dos. Ah oh ça veut complètement. Oh le pire, c'est que je suis abonné à Libé, mais pas, j'ai pas entré mes identifiants. Joli. Le symbole est terrible. Menacé par l'extrême droite pour avoir porté un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile face au manque de soutien de l'État, hein, il le dénonce, Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a donc finalement décidé, mercredi, hein, 10 mai, donc cette semaine, de démissionner de ses fonctions après l'incendie de son domicile et de quitter sa commune. Je vous rappelle qu'il est médecin dans sa commune. Pour autant, écrit Libération, la majorité présidentielle est moins loquace et réactive que d'ordinaire. Donc là, on est sur les réax. On va aller voir l'article et après, on viendra sur les réax. Voilà. Il aura tenu autant qu'il a pu. Yannick Morez, depuis longtemps menacé par des opposants au projet d'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la ville. Fin mars, il a été victime d'un incendie volontaire qui a également détruit deux de ses voitures. La réponse des autorités, rien, nada, zéro. Alors il a jeté l'éponge. Il explique. Ce mardi 9 mai, j'ai adressé à monsieur le préfet de Loire-Atlantique un courrier informant ce dernier de mon souhait de démissionner de mon mandat de maire, confirmant une information de West France. J'ai pris ces décisions pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'État et après une longue réflexion menée avec ma famille. J'ai toute confiance en mon équipe, équipe municipale, une équipe compétente qui continuera à agir au service de notre ville et de ses habitants. Après 15 ans de présence dans le conseil municipal, dont 6 ans en tant que maire, je pars en étant confiant dans l'avenir, conclut le maire démissionnaire. Depuis l'annonce du projet d'installation de ce centre d'accueil du demandeur d'asile, la commune est devenue, là on revient aux raisons de cet incendie, la cible de la fachosphère, manifestation d'extrême droite sur place, contre-manifestation antifasciste, ça c'était au début de l'année jusqu'à la fin avril. Les pressions ont escaladé jusqu'à l'incendie de la maison du maire. Les faits se sont donc déroulés le 22 mars aux alentours de 5h du matin. Yannick Morez et son épouse qui dormaient ont été réveillés par des passants. Trois salariés d'Airbus qui se rendaient au travail. Les flammes ont d'abord pris sur un des véhicules garés devant la maison, puis brûler un autre véhicule, vous avez vu la photo stationnée à côté, avant de se propager à la façade de la maison. L'élu a tenté en vain d'éteindre l'incendie avec un extincteur. Plusieurs manifestations contre le projet de déplacer près d'une école élémentaire le centre d'accueil de demandeurs d'asile qui avait ouvert dans la station balnéaire en 2016, après le démantèlement de la jungle de Calais, vous savez, donc ça, c'est les racines de cette histoire, elles remontent à loin, ont été organisées, ces manifs, à l'appel de l'extrême droite, en particulier de la mouvance de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Ouais, parmi les manifestants, notamment, on a vu Bernard Germain, qui est un candidat de Reconquête aux dernières législatives. Donc il s'agit non pas de l'installation, je le comprends par l'article, d'un centre d'accueil pour réfugiés en situation régulière, mais d'un déplacement en fait au sein de la commune de ce même centre d'accueil de demandeurs d'asile. Interrogé fin mars, le maire avait rappelé que 400 demandeurs d'asile ont été au total accueillis sur la commune depuis l'ouverture du centre il y a 7 ans et, soulignait-il, il n'y a jamais eu le moindre souci. J'ai lu, je vais vous lire aussi, je vais lire vos réactions. Libération a fait plusieurs articles, notamment sur l'absence de réaction du côté de la majorité. Il y a eu une réaction d'Aurore Berger ce matin sur France Inter, la patronne des députés Renaissance. En revanche, sous une Libération, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, sont restés jusqu'ici muets sur le sujet de Saint-Brévin, malgré les articles évoquant les multiples menaces et intimidations vécues par le maire Yannick Morez et les alertes de l'intéressé quand il dénonçait l'abandon de l'État. Il y a eu beaucoup de réactions, en revanche, à gauche, pour dénoncer cet incendie criminel, ainsi que l'absence de réaction au plus haut de l'État. Voilà, je vous lis maintenant. Je vous lis. Alors, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'il y a eu des réactions depuis ce matin, depuis l'écriture de cet article au plus haut de l'État? Et quelqu'un me dit, c'est Mighty Firefox. Selon France Info, Elisabeth Borne s'est exprimée depuis la réunion. Merci beaucoup pour l'info. On va aller voir la réaction d'Elisabeth Borne. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction avant l'incendie. C'est ce que dénonce en fait le maire de Saint-Brévin, qui aurait voulu avoir du soutien au plus haut de l'État face aux tensions dans sa commune. Quoi. Borne Saint-Brévin. Ah oui, il y a des réactions. Alors, j'ai un site de BFM ici, et même, je crois, un son. Ouais, c'est un extrait sonore.
Écoutez, ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays, et évidemment, il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés, et...
Pardon, je vous avais pas mis le... La scène. C'est parti.
Écoutez, ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays, et évidemment, il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés, et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées des extrémismes avec des situations inacceptables comme celles que vous avez mentionnées.
Des deux côtés. Donc la première condamnation au plus haut de l'État de ce qui vient de se passer à Saint-Brévin, c'est celle de la première ministre Elisabeth Borne qui dénonce elle, une montée des extrémismes des deux côtés. Alors ça met certains en colère dans le chat, comme Hugo90 par exemple, qui dit « Et hop, on met encore le fascisme et la colère sur un pied d'égalité. Ça me rend fou les histoires d'extrémisme équivalent des deux côtés, me disent qu'une zéro. C'est un peu tard, dit Ludenhurst par ailleurs. Comment ça des deux côtés? Des deux côtés, donc ce sont des mots qui vous ont mis en colère, je vous vois dans le chat. Ça va jouer sur ça pour faire... peur du RN, ils sont forts chez Renaissance, estime Ifatou. Elle arrive quand même à taper sur la gauche, même sur cette affaire, elle n'a honte de rien. Elle écrit camarade Del Toro dans le chat. Le des deux côtés vous a un peu, sinon surpris, sinon mis en colère. Je n'ai pas eu vent que l'extrême gauche brûlait des voitures d'élus, écrit Légende. Lanska, elle est à deux doigts de dire que c'est Mélenchon qui a mis le feu. Alors, je ne suis pas dans le cerveau de la première ministre, ça se saurait. La question de savoir quand elle parle des extrêmes des deux côtés, je suppose, j'espère que. Que j'analyse bien les propos de la chef de gouvernement, qu'elle veut évoquer les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites, notamment commises par les Black Blocs. Je suppose que c'est ce qu'elle veut dire, je suppose. Si on essaie d'interpréter les propos, votre sentiment, c'est ça ou pas? La comparaison est à gerber, estime nos piles lapins. Des commentaires intéressants. L'extrême gauche brûle les permanences d'élus, détruit des voitures de macronistes. Arrêtez de vous voiler la face, dit Yo le potier. Scarabot, des mairies ont été brûlées hein, lors des manifestations. C'est, j'imagine, ce à quoi elle fait référence. Je suis assez d'accord avec le commentaire d'artiste. Les Black Blocs, ce sont des anarchistes, pas de l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est le NPA et Force Ouvrière. Non, FO. Ah non, pourquoi tu dis FO ? Non, non, c'est pas FO que tu veux dire. C'est Lutte Ouvrière, tu veux dire, je pense. Je pense que tu as eu un petit misclic. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs, Stadonovic, Kulkat, Kukef a rappelé que la mairie brûlée, c'était donc à Lyon peut-être, et que c'était un groupe d'extrême droite. Voilà. Quelqu'un ajoute, je me souviens bien d'une mairie EELV brûlée lors des manifestations, et ça avait été revendiqué par l'extrême droite. Elle ne dit rien de précis, elle laisse les gens interpréter. Bref, dramaturge, vous avez entendu et senti comme moi la gêne hein, quand même de la Première Ministre sur le sujet. Quoi. C'est une déclaration extrêmement courte. Quoi. C'était Bordeaux ou c'était Lyon ? Parce que quelques-uns disaient Lyon tout à l'heure et beaucoup corrigent Bordeaux. Moi, j'ai plutôt le souvenir de Bordeaux, effectivement, qui est en plus une mairie Europe Écologie Les Verts, effectivement. À Lyon, ça, y a eu une mairie qui a cramé également ? J'ai pas ce souvenir. La porte de la mairie, c'est Bordeaux, confirme Wasp, c'est ça. Ouais. Et Lyon aussi, il y a eu quelque chose, qu'on soit complet et précis ? Bordeaux et Lyon, 4e arrondissement, précise Arenal. Ok. Donc les deux, en fait, c'est les deux. C'est la mairie de Bordeaux, mais il y a un groupe néofasciste qui fout bien la merde aussi à Lyon, écrit Poloche sans gêne dans le chat. Voilà, en tout cas, pour cette histoire. Donc je reviens, hop, à l'article de Libé. Qui est ici et qui souligne le manque de réaction au plus haut de l'État, dénoncé aussi par ce maire de Saint-Brévin, le manque de soutien. Et donc ce maire qui est aussi un médecin, a priori, a décidé, un, de démissionner, deux, de quitter la commune avec sa famille, puisqu'il estime, et il n'a pas totalement tort manifestement, que sa vie est en danger. Voilà, on y reviendra, bien sûr. Je pense que demain, on aura d'autres articles sur le sujet, notamment sur l'aspect politique de ceci. Je vous remercie pour les bits et les abonnements. Et on part sur la crise du logement. Merci CDQP pour les bits. Merci CDQP aussi pour l'abonnement offert à la commu et pour l'abonnement que tu as pris toi-même. C'est un festival. Merci French Yu-Gi-Oh! Pour les bits. Eluax pour le 18e mois d'abonnement. Mitramax pour le 4e mois d'abonnement. Martin, encore merci pour ton raid. Renbu pour le Prime. Andrea Léo pour ton Prime. Xavier Thiel pour ce 3e mois d'abonnement. Kaliki, encore merci pour le 13e mois. On y va pour la réforme, la crise du logement ? Vous êtes prêts ? On y va. 1h11, notre premier article des journaux de ce matin. On est bien, en vrai. Logement, les raisons d'une crise profonde. Oui, je vous en ai déjà parlé, je crois, notamment avec La Croix, Le Figaro, notamment. Je pense que c'est la troisième fois que je vous parle de ce sujet en quelques jours. Mais je trouve que le sujet est important et le dossier du Monde, je le trouve extrêmement clair, sinon le plus clair qu'on ait lu sur cette question. Je reste sur le... Je suis en train de lire le dernier message sur Bordeaux. Donc, logement, les raisons d'une crise profonde. Et je pense que par rapport à ce sujet, le dossier du Monde est extrêmement clair. Écoutez bien, tout est résumé en quelque sorte sur la première page, sur la une du Monde. La hausse brutale des taux d'intérêt, je pense que vous êtes au courant, pour lutter contre l'inflation, a drastiquement réduit l'accès au crédit immobilier. Les ménages bloqués dans leur projet d'accession à la propriété, puisque les taux d'intérêt remontent, restent donc sur le marché locatif, qui du coup est paralysé. Peu de biens sont disponibles du fait des faibles rendements et des règles contre les logements énergivores. En quelques mots, là, vous avez vraiment le descriptif de la situation et pourquoi tout est bloqué, et pourquoi tout est très cher à l'achat comme à la location. Dans le neuf, les promoteurs souffrent de la hausse des coûts des matériaux et du pouvoir d'achat en berne des acquéreurs. Malgré les alertes des élus, le gouvernement a tardé à s'emparer d'un dossier pourtant au cœur des préoccupations des Français. En fait, le Monde, dans sa façon de fonctionner, se sert de ce sous-titre-là pour résumer un peu à l'extrême, mais de façon assez claire, le dossier, ce qui permet de gagner du temps à ceux qui n'ont pas le temps de lire les 3, 4, 5 pages du dossier. Je répète ces infos parce que je trouve que c'est très bien fait. Pourquoi on a une crise du logement en France ? Alors, elle est dure depuis longtemps, mais pourquoi elle est accentuée aujourd'hui ? 1. Hausse brutale des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, donc décidé par les banques centrales, notamment la BCE, qui a drastiquement réduit l'accès au crédit immobilier. Les ménages, du coup, bloqués dans leur procès d'accession à la propriété, restent sur le marché locatif. Du coup, grosse demande et très peu de logements alloués, pas assez en tout cas. Peu de biens d'ailleurs disponibles du fait de faibles rendements. Donc des propriétaires qui ne sont pas forcément incités à acheter pour louer. Et en plus, des nouvelles règles contre les logements énergivores. Dans le neuf maintenant, ça c'est pour l'ancien, les promoteurs souffrent de la hausse des coûts des matériaux, on revient à l'inflation, et du pouvoir d'achat en berne des acquéreurs, puisque l'inflation monte, mais quant au salaire, ce n'est pas forcément le cas, tant mieux si c'est votre, si chez vous les salaires ont augmenté. Malgré les alertes des élus, le gouvernement a tardé à s'emparer d'un dossier pourtant au cœur des préoccupations des Français. Voici le dossier qu'on va lire un petit peu. La crise du logement s'enracine, écrit Le Monde. Hausse des taux d'intérêt, chute des mises en construction, logement social saturé par ailleurs. Ça, c'est un autre aspect qui est intéressant. Malgré les alertes des élus, l'exécutif ne s'est pas emparé du dossier. Le Monde qui reproche en fait au gouvernement, à l'État, de ne pas avoir pris la mesure en fait de cette crise. Hop, je zoome un petit peu, une gorgée de café et on y va. Il y a un vrai problème de logement dont il faut parler. Ce qui fait perdre de l'argent aux Français au quotidien, c'est le logement. Aujourd'hui, l'explosion des prix appauvrit beaucoup de Français. Sur le plateau de France 2, au soir de la 9e journée de manifestation contre les retraites, le 23 mars dernier, Olivier Marleix, qui est le président du groupe LR, la droite à l'Assemblée, était un des rares à l'époque à relayer à une heure de grande écoute l'inquiétude partagée par de nombreux parlementaires et élus locaux sur un sujet absent de l'agenda du gouvernement, la crise du logement. Le premier poste de dépense des ménages est le sujet numéro 1 qui remonte aujourd'hui auprès des députés, tous partis confondus. Nous n'avons pas assez parlé ces dernières années, reconnaît Lionel Kos, qui est député Renaissance, lui, des Landes. Tous les jours, on vient me voir pour m'en parler. Des familles qui s'agrandissent, coincées dans des T2, des couples qui se séparent et ne trouvent pas de solution. Donc des couples séparés mais qui restent ensemble parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Nous n'arrivons pas à répondre aux besoins, abonde Gabriel Doublet, président Horizon de l'agglomération d'Annemasse en Haute-Savoie. Donc des élus qui tirent la sonnette d'alarme et Un exécutif qui est resté sourd à ces signaux. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, s'est révélé impuissant à pousser ses dossiers auprès du président et de la première ministre. Illustration a écrit le Monde de cette incapacité à remporter des arbitrages ou à donner une impulsion. En octobre 2022, Monsieur Klein s'engage à empêcher les propriétaires de logements énergivores de les louer sur les plateformes de location touristique, comme Airbnb par exemple. Il est hors de question que les propriétaires de passoires thermiques se réfugient sur Airbnb, avait-il déclaré à l'époque. C'était en octobre dernier. 8 mois plus tard, eh bien, la mesure se fait toujours attendre. Donc un exécutif qui parfois prend la parole, mais qui n'agit pas manifestement sur cette question du logement. Retour, grâce au Monde, sur les racines de cette crise. La Banque Centrale Européenne a relevé donc au total de 3,75 points ses taux depuis juillet 2022. Donc ça va très très vite quand même, hein. À un rythme inédit dans l'histoire de l'Institut monétaire pour lutter contre l'inflation galopante qui est à l'œuvre depuis le début de la guerre en Ukraine. Hausse brutale donc. Depuis, que font les banques? Eh bien, elles répercutent bien sûr ces hausses au fil des mois. Le taux moyen des crédits immobiliers étant passé de 1,06% en décembre 2021 à 3,15% en avril. De quoi réduire drastiquement la capacité d'emprunt et donc le budget des ménages. Si vous avez récemment cherché à acheter, vous êtes au courant de ce sujet. Ça, c'est pour les taux d'intérêt. Le marché locatif, lui, il est donc paralysé par des ménages contraints de rester locataires. Hein, les ménages bloqués dans leur projet d'accession n'ont pas d'autre choix que de rester locataires. Résultat, le marché est grippé. Hein, on ne quitte pas l'appartement ou la maison qu'on loue pour acheter, donc du coup ce bien n'est pas proposé à d'autres ménages. Le marché est grippé avec comme conséquence directe des jeunes qui restent plus longtemps chez leurs parents. Certains dans le chat me disaient « je suis retourné chez mes parents ». Des ménages qui habitent encore ensemble alors qu'ils sont séparés, ça c'est quand même c'est chaud quoi. Et des temps de trajet très importants, on ne trouve pas à proximité de son travail et parfois on va loin et parfois on va très loin. Parce que plus près, il n'y a pas, ou plus près, c'est très, très cher. Les professionnels du secteur mettent en cause un moindre intérêt des investisseurs pour le marché de la location en raison d'un rendement jugé insuffisant. Voilà. Alors pour les propriétaires, l'investissement dans l'immobilier ne serait pas assez intéressant en raison des rendements insuffisants. D'une taxe foncière en hausse, mais aussi de l'interdiction progressive de mise en location des logements les plus mal isolés et énergivores. Autre facteur, la vague massive de transformation d'appartements en meublés touristiques alimentée par le succès d'Airbnb. Plus de 800 000 locations saisonnières étaient recensées fin 2021, en hausse de 18% par rapport à 2020. Dans les zones les plus attractives, la perspective de rentabilité élevée offerte par les locations saisonnières a contribué à la fois à la hausse des prix de l'immobilier, hein, et à l'assèchement du marché locatif. Face à la crise du privé, le logement social, lui, est à bout de souffle. Oui, c'est une équation avec beaucoup de données, qui ne sont pas des inconnues d'ailleurs, puisque globalement c'est assez clair. Des difficultés sur le marché locatif privé viennent allonger la liste d'attente pour le logement social. Les chiffres sont un peu fous. Vous allez voir, 70% de la population est éligible. En un an, 100 000 nouvelles demandes ont été déposées, portant à 2,3 millions le nombre total des ménages en France en attente d'un HLM. Vous avez 2,3 millions de ménages en France qui sont sur liste d'attente pour un logement social. Dans le même temps, la production de logements sociaux diminue avec moins de 100 000 agréments en 2022 alors que 120 000 étaient prévus, en cause la hausse du coût des fonciers, du foncier et de la construction. Je vais vous dire dans un instant, je vois plein de réactions. Mi-avril, Emmanuel Cos, qui est la présidente de l'Union sociale pour l'habitat qui fédère les organismes HLM, appelait l'exécutif à arrêter de tergiverser. Pour elle, il y a des solutions. Quelles sont ces solutions? Il s'agirait de subventionner la construction de logements sociaux, de mieux faire respecter l'obligation pour les communes d'atteindre, vous savez, 20% de HLM. Effort d'autant plus nécessaire que 2 entreprises sur 5 sont désormais affectées par des problèmes de logement de leurs salariés et qu'il y a urgence à loger les travailleurs de première ligne, les caissiers, les aides à domicile, les soignants, aux revenus souvent modestes, suffisamment près de leur lieu de travail. Enfin, le mal-logement et le nombre de sans-abri progressent dans notre pays. Conséquence de tous ces désordres, les Français ont de plus en plus de difficultés à trouver une habitation qui leur corresponde. Le mal-logement concerne 4,1 millions de personnes, estime la Fondation Abbé Pierre. Parmi celles-ci, 330 000 sont sans domicile. Hop, je vais à la fin de l'article qui est intéressant, puisque le monde estime aussi qu'il y a des solutions possibles. Voilà, on a entendu celle d'Emmanuel Cosse. Le Monde écrit, article de Claire Hanet et Véronique Chocron, selon des acteurs du secteur, la crise en cours appelle à un réengagement, y compris financier, au niveau de l'État. En effet, l'effort public pour le logement n'a jamais été aussi bas en France. Il est passé de 2,2% du PIB en 2010 à 1,5% du PIB en 2021. C'est Christophe Robert qui l'a rappelé lors de la présentation du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. C'était en février. Je vous ai donné beaucoup d'infos à vous maintenant, parce que ce sujet, vous le connaissez peut-être, vous le vivez peut-être. Dodo, même problème en Suisse, voire même pire dans certains cantons. J'ai dû vivre avec mon ex pendant 4 mois car elle ne trouvait pas d'appartement lors de notre séparation. Merci Trading Academy pour le raid à l'instant. Merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à souligner le nombre de logements vacants en France. Voilà. Et de le mettre en rapport avec le nombre de personnes sans domicile, par exemple. Je vais devoir déménager dans une autre ville dans les prochains mois. Je vous dirai à quel point c'est galère, me dit Poloche sans gêne. Sourac a totalement raison, c'est évoqué par l'article du Monde. N'oublions pas en plus que les crédits des bailleurs sociaux sont indexés sur le livret A et que quand celui-ci augmente, comme en ce moment, le prêt à rembourser pour les bailleurs sociaux est augmenté aussi. Donc en ce moment, ils ont de grosses difficultés à construire de nouveaux logements. Baricora étant assistante sociale chez un bailleur social, je confirme que c'est une catastrophe pour nous. Hein. Sur le département du Calvados, nous n'avons que 10 logements vacants. Ça devient très compliqué. 10 logements vacants sur un département. Je vous lis. Je suis cadre, me dit Cormédard. Mes capacités d'emprunt sont trop faibles pour le marché immobilier et autour de moi, l'augmentation des prix est de 75% sur 5 ans. À Lyon, c'est l'enfer pour trouver un logement, me dit Trezio. Neuf ans, me dit Litchi, DS, que je suis en attente pour un logement social. Je vis actuellement dans un logement insalubre, aucune nouvelle, situation très compliquée en France. Atsouet, c'est fou. Quand des élus disent que c'est un des problèmes principaux des Français aujourd'hui, la crise du logement, ça se vérifie dans ce chat. Atsouet, 3 ans que je cherchais un appart, j'ai enfin une réponse il y a un mois, et c'est réellement par chance parce qu'il y a eu un problème de construction dans la commune voisine et je reste à 1h30 de mon travail. Trop de rentiers qui achètent pour louer, écrit Thomas. Attends, je retrouve ton message. Voilà. Des maisons, même en campagne, sont achetées pour la location. Les Français veulent du terrain, ne lâcheront jamais leurs biens. Kova Nanas, constat effrayant, les salaires ne suivent plus en France, les loyers augmentent dans les régions comme la Bretagne. Il est très difficile pour les saisonniers, par exemple, de trouver un logement. Rania Rochefort, est-ce que la crise du logement n'est-elle pas aussi à mettre en rapport avec l'augmentation des personnes qui habitent seules? Oui, c'est l'un des aspects de cette crise, disent les spécialistes. Je l'ai lu dans un dossier, dans un autre journal il y a quelques jours. Allez, j'en lis encore un ou deux messages, et puis j'enchaîne parce que j'ai 1000 articles à vous lire, et je suis très lent ce matin parce que je prends le temps. Mais je sais bien sur Twitch aussi. Un Regan Drive, j'ai dû déménager à plus d'une heure de mon job pour trouver un appart pas trop cher. Quelle solution certains proposent ici, comme The Driven, réglementer Airbnb, relancer de la construction de logements sociaux, interdire de posséder plus de X propriétés immobilières, encadrer les loyers par rapport à l'inflation et au salaire. C'est un choix politique de nous laisser être mal logés, estimes-tu ? Ellie, au risque de me répéter pour la troisième fois, je n'avais pas vu ton message. Aucun problème pour trouver un appart à Tours et en général dans les villes moyennes, et ça en quelques jours. T2 près de la gare, trouvé en 3 jours. Ouais, mais Tours aussi. Ouais. Ouais, ouais, mais je plaisante. J'adore, je connais très bien la région. J'ai même de la famille. Mais t'es sûr que c'est facile de trouver dans une ville comme Tours ? Non, mais Tours quand même, hein. Ouais, Tours, c'est super joli. Hein. C'est y a un très beau centre. Pour courir le long de... Je ne me rappelle même plus du nom du fleuve. Là, j'ai honte. C'est top. Allez, je remercie quelques subs. Et on enchaîne avec le sujet de la mixité sociale à l'école. C'est peut-être la Loire. À une époque, je courais par là. Il y a un grand débat sur Tours qui est lancé là. Je remercie Cacaboudingue pour le sub offert à Mifig Biterran. J'adore ces pseudos. CDQP, merci pour les bits à nouveau et les abonnements que tu t'es pris et que tu as offert. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parti pour les blagues sur Tours. Hein. Une ville qui vaut le détour. Voilà. Odile Dorem propose l'Amazon qui passe à Tours. Ah oui, c'est peut-être l'Amazon, c'est vrai. Ouais, je ne sais plus. Alors, mixité sociale. Alors, qué passo, on va parler de l'école publique et on va parler de l'école privée. L'école privée qui se fait prier. Ah, je viens de comprendre la vanne. Oh la vache ! J'ai lu ce papier vers 5h30 du matin, il est 11h16. Tout va bien, je viens de comprendre la vanne. L'école privée qui se fait prier. Parce que l'école privée, elle est souvent confessionnelle. Hein, en France, et souvent catholique. Ah, je ne suis pas le seul, du Duc, l'avocat n'avait pas compris. Hein. Donc, catholique, prier, l'école se fait prier. Voilà, merci Libération, je viens de comprendre. J'ai mis donc 6 heures à comprendre ce jeu de mots. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ? Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, je vous le précise parce qu'on ne voit que la moitié de son visage ici, sur la une de Libération, présente aujourd'hui, on est à fond sur l'actu, son plan pour lutter contre la ségrégation scolaire. S'il veut impliquer le privé, il ne souhaite pas braquer les catholiques un numéro d'équilibriste. Lisons ce dossier qui est assez intéressant. Mixité sociale, le privé grondé mais pas puni. Le ministre de l'Éducation entend faire participer l'enseignement sous contrat, donc l'enseignement privé sous contrat, à l'effort de mixité sociale à l'école, dont le plan est dévoilé aujourd'hui. Je pense qu'on y reviendra demain sans doute sur ces annonces. Mais Pape Ndiaye n'imposera rien à ces établissements, pourtant abondés, financés, pour une partie importante, vous le savez peut-être, par l'État et donc par l'argent public. L'enseignement privé sous contrat, qui scolarise 2 millions de jeunes en France, soit 17% des élèves, de plus en plus pointé, montré du doigt, pour le manque flagrant de mixité sociale dans les établissements. À tel point que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, promet depuis des mois d'inclure le privé dans son plan de mixité sociale à l'école qui est présenté aujourd'hui. Après avoir censé s'était repoussé depuis le mois de novembre. S'il était déjà connu, le fossé social entre le privé et le public saute désormais aux yeux depuis, et ça c'est nouveau et c'est pour ça aussi qu'on en parle, depuis la publication cet automne d'un truc nouveau qui sont les indices de position sociale, les IPS de l'éducation nationale qui permettent de savoir, écoutez parce que c'est important, j'ai l'impression de prendre le ton d'un prof là, écoutez hein, parce que c'est important hein. Les IPS qui permettent de savoir si les élèves sont en moyenne issus d'un milieu social favorisé. Ainsi, écoutez bien, désolé, je fais mon prof là, parmi les 10% des collèges les plus favorisés de France, plus de 60% sont privés. À la rentrée 2021, le privé sous contrat accueillait deux fois plus d'élèves socialement très favorisés que le secteur public. Inversement, 18,3% des élèves du privé sous contrat sont de milieux défavorisés contre 42,6% des élèves du public, écart qui ne cesse de se creuser. Donc on le savait qu'il y avait une différence de mixité sociale globale, en moyenne bien sûr, il peut y avoir des situations particulières, on le savait depuis longtemps, entre le privé et le public, mais là on a des chiffres depuis l'automne dernier qui sont beaucoup plus précis, quoi. Je vous lis un petit peu et j'enchaîne. Merci Lazarus pour le petit message. Il y a Clément Poitou qui demande madame, monsieur, est-ce que ce sera dans le contrôle? Oui, il y aura interrogation à la fin de cet article, bien sûr, et ça comptera dans la moyenne du trimestre. Voilà, donc écoutez bien. Ah bah elle a posé la même question. Ouais, il y aura interro. Alors, certains ont posé la question, est-ce que privé égale forcément catholique ? Non, bien sûr. Il y a de l'école privée non confessionnelle en France, il y a des écoles privées catholiques, il y a des écoles privées juives, il y a des écoles privées, je pense aussi... est-ce qu'il y a des écoles privées musulmanes en France ? Oui, il y a quelques établissements, je me rappelle le papier sur la question, mais la très 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 grande majorité des écoles privées sous contrat en France sont catholiques. Je continue. Alors comment expliquer cette différence de mixité sociale entre le privé et le public? La loi reconnaît à ces établissements, donc le privé sous contrat, un caractère propre, ce qui leur permet de recruter leurs élèves comme bon leur semble, hein, de façon très opaque. Ils ne sont donc pas soumis, comme le public, à la fameuse carte scolaire. Pourtant, la France, écrit Libération, subventionne massivement la concurrence privée de son école publique, puisque depuis la loi Debré de 1959, les établissements privés sous contrat sont financés, à 73% par les fonds publics. Voilà. Donc ça, ce chiffre est quand même intéressant. L'État rémunère les enseignants. Les enseignants du privé sous contrat sont payés par l'État, qui passent les mêmes concours que ceux du public. Tandis que les collectivités locales prennent en charge des dépenses de fonctionnement comme l'entretien des salles, le chauffage ou l'électricité. Qu'est-ce qui reste aux établissements privés à payer grâce aux contributions des familles et aux dons défiscalisés des fondations? Eh bien, les dépenses d'investissement, d'entretien des bâtiments aussi, c'est pas marqué mais je l'ajoute, et celles liées à leur caractère propre comme par exemple la catéchèse, le catéchisme. Voilà. La contrepartie de ça, le privé sous contrat, parce qu'il y a aussi un privé hors contrat, sous contrat doit respecter les programmes scolaires et ne doit pas imposer d'enseignement religieux. C'est-à-dire qu'il peut proposer un enseignement religieux, mais il ne doit pas l'imposer. Et il doit respecter aussi le programme scolaire. En France, on a donc un enseignement privé qui, dans les textes, remplit une mission de service public pour le compte de l'État. Or, le privé, c'est ce que reproche Libération, mais aussi un sociologue, un professeur de sociologie qui s'appelle Choukri Benayed. Or, le privé sélectionne les élèves hein, à l'entrée et en cours de scolarité, ce qui rejoint une logique de marché qui n'existe pas dans le public. Ce professeur qui ajoute, les motivations à l'égard du privé ont changé en un demi-siècle. La part de l'éducation religieuse n'est plus déterminante pour la grande majorité des parents d'élèves qui s'en fichent en fait royalement. Ils optent en fait pour le privé pour fuir un public qui est jugé défaillant parce qu'il y a moins d'enfants immigrés et pour un entre-soi social. Je vous lis un petit peu. Oui, 73% d'argent public. Il y a Dobbs qui est un peu surpris. La question est pourquoi les plus aisés mettent leurs enfants dans le privé plutôt que dans le public, demande Diralé. Bah, Libération essaie de répondre à cette question, effectivement. Hugo 90, et si on interdisait totalement les écoles, alors tu dis religieuses, mais je pense que tu veux parler des écoles privées. Alors ça, c'est un peu compliqué, puisque le dernier qui s'y essayait, c'est François Mitterrand, je crois, sur son premier septennat. Et ça a mis des millions de personnes dans la rue. Et depuis, il n'y a plus un gouvernement qui n'a essayé, en fait. Les Français, globalement, quand on leur demande, notamment à travers les enquêtes d'opinion, sont pour la coexistence, en fait, des deux systèmes privés et publics, en fait. Il n'y a pas de majorité de Français qui souhaitent mettre fin à ce système. Pour répondre à la question de Karma Del Toro, est-ce que c'est 73% des écoles privées qui sont financées par l'État ? Non, c'est 73% du budget des écoles privées qui est financé par l'État. Donc, pour être encore plus clair, 100% des écoles privées sous contrat sont financées à hauteur de 73% de leur budget par des fonds publics. Voilà. Bon, maintenant ça va aller. Vous prenez une copie double. Vous prenez un crayon. Voilà. Thomas, ta tête vers ta copie, pas vers la copie de Sophie. Merci, c'est bon. J'en ai marre de retrouver exactement les mêmes fautes sur les deux. Donc maintenant, interro-écrite. Je ne veux pas entendre une mouche voler. Allez, c'est parti. Et ça va compter pour la moyenne. Petit ou grand carreau ? Petit carreau. Petit carreau. Oui. Monsieur, j'ai effacé mon... J'ai oublié mon effaceur à la maison, Cyril. Cyril, je t'ai déjà dit, les bons écoliers ont les bons outils. Voilà, tant pis. Voilà. Ouais. Monsieur, j'ai mal au ventre, je dois aller à l'infirmerie. John, non. Je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche. Si tu vas à l'infirmerie, c'est zéro. C'est zéro. À mon avis, c'est illégal ce que je viens de dire là. Ouais. Je vois que ça a mis plein de stress dans plein de têtes et de ventres. Désolé pour la blague. Oh la vache, ça rappelle plein de mauvais souvenirs. Ah, c'est ouf. Ah, j'adore. Oh, je suis désolé. Euro, merci beaucoup pour le quatrième mois d'abonnement. Je finis l'article. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a l'intention politique du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui dit l'enseignement privé sous contrat va participer à l'effort de mixité sociale. Sans cela, notre politique de mixité sera vouée à l'échec. C'est ce qu'a déclaré Pap Ndiaye devant le Sénat, c'était début mars. Le ministre a pourtant finalement choisi de décorréler la question du privé de ses annonces d'aujourd'hui. Voilà. Le protocole d'accord pour introduire davantage de mixité sociale dans l'enseignement catholique, qui compte 97% des écoles, des élèves du privé sous contrat. Donc voilà pour ceux qui se posaient la question. 97% des élèves du privé sous contrat, en fait, c'est dans des écoles catholiques. Donc ce n'est pas 100%, mais c'est quand même l'immense majorité. Eh bien, ce protocole d'accord sera signé dans quelques jours, et donc ce ne sera pas dans les annonces d'aujourd'hui, qui ne concernent que les établissements publics. On sent qu'il y a un petit peu de prudence, sinon de crainte de la part de ce ministre sur un sujet qui est un sujet un petit peu brûlant. Pap Ndiaye a plusieurs fois précisé d'ailleurs qu'il n'y aurait rien d'obligatoire dans ce partenariat avec les écoles privées, qu'il n'était nullement question de rallumer la guerre scolaire. Je vous parlais de ce qui s'est passé au début des années 80 en France. Et pour cause, celui qui déclenche cette guerre scolaire se sait d'office perdant, résume un historien de l'éducation qui s'appelle Claude Lelièvre. Pour preuve, tiens, je vous en ai parlé déjà à deux reprises, les énormes manifestations de 1984 contre le projet de loi de Savary qui prévoyait de rapprocher les établissements publics et privés en un service public unifié et laïque de l'éducation nationale. C'était la suppression en fait de l'enseignement privé François Mitterrand avait dû reculer, le président de la République à l'époque, reculer face à la bronca. Et pour le coup, c'était des je crois, millions de manifestants. Je crois qu'on avait atteint le million. C'était énorme. Voilà. Donc, prudent sur ce sujet. Ceux qui lancent des boulettes de papier, je vous vois. Prudent Pape Ndiaye ne touchera donc pas au libre choix des familles et à la sacro-sainte liberté de recrutement du privé qui a d'office d'ailleurs fixé ses limites. Le privé qui a déclaré « Nous n'accepterons ni quota, ni rattachement à la carte scolaire, ni affectation obligatoire des élèves. La marge de manœuvre est étroite. Pape Ndiaye cherche donc à ce que l'enseignement catholique s'engage sur des objectifs chiffrés non contraignants et fixés sur long terme. » C'est assez cool, hein, c'est assez soft. « Avec plus d'établissements modulant leurs frais de scolarité selon les revenus des familles, et surtout en augmentant le nombre de boursiers qui représentent aujourd'hui moins de 10% des effectifs du privé, avec 3 fois moins que dans le public. » Voilà. Mais aucun quota ne sera imposé. Et du coup, réponse à cette attente du côté du privé, l'enseignement catholique se dit prêt à faire des efforts, voilà. À condition que les collectivités prennent en charge le coût de la cantine et du transport scolaire comme elles le font pour les élèves du public. Donc j'apprends ici que par exemple le coût de la cantine, eh bien, il n'est pas supporté par l'État dans les écoles privées, mais il est payé a priori par les parents. Voilà. En fait, il ne se mouille pas vraiment le ministre, dit Aurel Segarra. Bah, c'est un petit peu ce que nous dit Libération, effectivement. Oui, c'est ça. DB345 nous dit, moi j'aime bien, c'est le fait qu'on est dans le chat des gens directement concernés. Je bosse dans l'enseignement catholique et on est censé accepter tous les élèves, peu importe leur situation financière et même s'ils ne peuvent pas payer l'école. Le problème vient surtout de certains chefs d'établissement qui trient les élèves pour obtenir les meilleurs stats de réussite au brevet et au bac, par exemple. Alors moi je connais bien ce système puisque j'ai été élevé en Bretagne, où la proportion d'écoles catholiques, pour des raisons historiques, est extrêmement importante. Donc j'ai fait toute ma scolarité dans le privé catholique, ce qui en Bretagne est assez classique. On est pas loin d'une école sur deux qui est en privé catho en Bretagne. Et effectivement, il y a une sélection à l'entrée de certains chefs d'établissement, et il y a même une sélection pendant la scolarité où on pousse dehors les élèves au niveau le plus faible au cours de scolarité, hein. On les remercie, hein, on leur dit bah non, ça va pas le faire, hein, vous n'êtes pas accepté dans notre établissement à la rentrée prochaine, pour augmenter le niveau, pas en étant les meilleurs au niveau de l'enseignement avec les meilleurs profs, les meilleurs cours, mais tout simplement en virant ceux qui sont considérés comme les moins bons pour gonfler les stats de résultats au brevet puis au bac, quoi. Voilà, bon, ça c'est un grand classique, je pense que je n'apprends rien à personne. King Julian qui vient de transformer son effaceur en sarbacane, je t'ai vu. Ah, on me dit que dans le public, les parents payent aussi la cantine. Zut. Alors, attendez. Alors, ce que sont dire Libé, c'est que dans le public, c'est les collectivités locales qui prennent en charge le coût de la cantine. Alors, peut-être pas. Alors, si j'en crois les informations que vous me donnez, je vois que des parents ici payent pour la cantine de leur enfant. Alors, je suppose que l'info doit être entre les deux, à savoir que ce qui est payé par les parents ne correspond pas à la totalité du coût de la cantine des élèves et que la collectivité locale met au bout, en fait. Ah voilà, c'est ce que dit Azazu. Une partie, pas la totalité. D'accord. Ah ! Je vous lis. Lilou Rafou écrit « Moi aussi, j'étais à Saint-Vincent à Rennes. C'était difficile et je ne me sentais pas du tout à ma place quand je suis arrivé venant du public. Lilou Rafou, j'ai fait toute ma scolarité dans cet établissement scolaire dont je le connais très très bien. » Bien sûr. Ma sœur est enseignante dans le privé en Bretagne, me dit Maloriel, elle a pas mal de mauvais élèves. J'imagine que ça dépend des établissements aussi. Bien sûr, ça dépend des établissements. Ça dépend du coup. Voilà, ça c'est une politique qui est décidée par le chef d'établissement. Tiens, il y a Ebonde qui dit, j'étais dans un collège lycée privé, le directeur qui était en poste pendant mes dernières années faisait clairement du tri pour avoir des articles dans les journaux et être bien classé avec les résultats du bac et du brevet. Bon, bah, l'actualité, c'est que le privé est invité par le ministre de l'Éducation à davantage de mixité sociale, voilà, mais de l'incitatif et rien d'obligatoire. On attend les annonces dans les prochains jours. Ça dépend, hein. Texto, Raxel a de mauvais souvenirs. Ah, l'école privée catholique, que de souvenirs. L'homophobie, l'intolérance, que de souvenirs, vraiment. Moi, pour le coup, donc j'ai passé toute ma scolarité dans le privé catholique en Bretagne, à Rennes. Et pour le coup, j'ai été assez touché à l'époque de l'humanité et de l'ouverture d'esprit des religieux qui nous faisaient cours, puisque une partie des profs étaient des prêtres, des frères, des sœurs, des pères. Et pas des laïcs, et notamment pour les matières littéraires. Le français en première m'a été enseigné par un père, la philosophie en terminale par un père, le père Coquet, je crois, ou le père Gendreau, je ne sais plus. Et je les ai adorés. Et c'était des hommes et c'était des femmes qui étaient d'une grande douceur, d'une grande bienveillance avec les enfants. Et pour le coup, j'ai un très bon souvenir de ces religieux. Alors que du côté des laïcs, bon, certains étaient formidables aussi, mais pour le coup, ceux qui m'ont bien cassé les... Oh, il faut dire les termes, ceux qui m'ont le plus cassé les couilles, certains, là, c'était des laïcs, quoi. Je me rappelle un certain professeur d'histoire géo, là, qui m'avait bien cassé les burnes. Après, c'est pas le statut qui est important, quoi. Ça se joue au niveau de l'individu, là. Voilà. Il y a 16 carreaux. Le problème, c'est pas laïcité, c'est que les professeurs d'histoire sont fous. Non. À l'inverse, c'est parce que mon pire souvenir de prof, c'est un prof d'histoire géo, et mon meilleur souvenir de prof, c'est un professeur d'histoire géo aussi. Mais du coup, c'est pas le même. Allez, on enchaîne. Donc, je suis censé vous lécher. Pas vous lécher. Pas vous lécher.
Non.
Vous lâchez dans une heure. Alors, on accélère un petit peu. Je voudrais rendre hommage une dernière fois, on l'a fait longuement hier, à ce jeune journaliste français qui est mort en Ukraine. Voilà, on a pris le temps hier, ça me semblait important. Je voudrais juste le faire à nouveau rapidement ce matin, la mort d'Arman Soldin en Ukraine. Il voulait être auprès des persécutés. Il y a énormément de personnes qui témoignent, de gens qui l'ont connu. Dans Libération, si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire cet article, page 6 dans Libé. Sinon, si vous tapez cette info sur Google, vous allez trouver plein d'articles d'actu. Je vous rappelle juste que ce journaliste de l'AFP a été tué mardi dans le Donbass par un bombardement de missiles russes. Il avait 32 ans seulement, c'était un passionné de son métier, c'était un vrai journaliste, un homme de terrain. Sa mort qui a provoqué une onde de choc et d'émotion rappelle les risques permanents auxquels sont confrontés ceux qui couvrent cette guerre d'une rare intensité. Libération qui nous rappelle que c'est le 10e décès d'un professionnel des médias en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. C'est le décompte de Reporters sans frontières. Hier, on a pris un long moment pour se pencher notamment sur ce jeune homme, qui il était, son parcours, notamment avec un article de West France qui était très bien écrit. Je vous invite à aller voir le replay si ça vous intéresse, sinon allez chercher sur Internet. Voilà. Je voudrais rendre hommage à d'une autre manière, de façon beaucoup plus joyeuse, à cette immense championne pour laquelle j'ai énormément d'admiration, qui est la judokate française Clarisse Agbenienou. 6 titres de championne du monde, c'est juste totalement insane. Moins d'un an après avoir accouché, et ça c'est complètement fou en fait dans l'histoire du sport et notamment de ce sport, moins d'un an après avoir accouché, la Française a remporté l'or au championnat du monde en 63 kilos, moins de 63 kilos, mercredi à Doha. La désormais sextuple, c'est complètement dingue en fait, sextuple médaillée donne rendez-vous pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une histoire incroyable. Bientôt dans une rencontre, Étienne me dit que la maquine, mais je rêverais moi de la recevoir. C'est vraiment, vous savez, je ne reçois pas beaucoup de gens dans la rencontre Étienne. Donc Franck Gastambide hier soir, il y a eu Soprano, il y a eu Grand Corps Malade, il y a eu des streamers aussi que j'aime bien, que j'ai reçus à la maison, mais je préfère recevoir peu de gens, mais des gens qui me touchent. Clarisse Agbenienou, c'est clairement quelqu'un que je rêve de rencontrer. En plus, je l'ai déjà vu interrogé en duplex pendant la crise sanitaire pour France Info. Voilà. Et elle est géniale en plus. Humainement, elle est ouf, quoi. Fuzouz me dit, tu peux la tag sur Twitter, elle est ultra accessible. Regarde, tu sais ce qu'on va faire ? On va l'inviter tout de suite ensemble. Voilà. Attendez, ça se trouve, je l'ai déjà écrit, donc je cache. Non, c'est pas écrit. On s'est pas écrit. Donc je vais lui écrire un petit message. Alors, attendez. Je vous montre pas du coup parce que j'ai tout l'historique de mes messages là, notamment avec les amis, avec mes amis modo, avec qui j'échange quasiment au quotidien, avec mes amis streamers et streameuses, et c'est un petit peu caché quand même. Donc allez, par contre, on va l'écrire ensemble. Chère Clarisse. D'abord, toutes mes félicitations. Oh, j'ai fait plein de fautes. Mes félicitations. Pour ce 6e titre. Je suis vraiment très heureux pour vous. C'est un truc très sincère que je vais lui dire là, parce que je trouve que ça a été compliqué pour elle ces derniers mois. Très heureux pour vous après la séquence difficile que vous avez connue. Avec la Fédé, avec la fédération hein, de judo. Je sais pas si tu es au courant de l'histoire, c'est ouf quoi. Hein. J'ai déjà eu le plaisir de vous interviewer en duplex pour France Info. Pendant la crise sanitaire, c'était super. Elle nous expliquait comment elle essayait de rester en forme alors que tout était fermé au plus fort de la crise sanitaire. Elle était chez elle avec sa famille. Pendant la crise sanitaire, je ne sais pas si vous connaissez Twitch, une merveilleuse plateforme qui permet notamment, qu'est-ce que c'est que ça, hop, notamment une, je l'entends devant Twitch hein. Je suis long hein. Une forte interaction avec, on va dire, le public, on va pas mettre le viewer, public, je serai très heureux de vous recevoir sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez quoi ? Une merveilleuse plateforme sur laquelle je fais le compte tous les matins devant des milliers de viewers. Non, Cyril, je peux pas dire ça. Je relis. Chère Clarisse, j'ai pas fait de faute. Non. D'abord, toutes mes félicitations pour ce sixième titre. Je vérifie qu'on est bien sûr un sixième titre quand même. Yes, siphon en or. Pff, c'est une dinguerie. Je suis vraiment très heureux pour vous après la séquence difficile que vous avez connue avec la fédération. J'ai déjà eu le plaisir de vous interviewer en duplex pour France Info. Hop, il y a une petite faute d'orthographe. Pendant la crise sanitaire, je ne sais pas si vous connaissez Twitch pour l'interrogation, une merveilleuse plateforme qui permet notamment une forte interaction avec le public. Je serais très heureux de vous recevoir sur ma chaîne. Vous en pensez quoi? C'est validé? C'est hyper formel? Ouais, oui, bah c'est comme ça que j'ai écrit en fait. Voilà. C'est cool? C'est cool? Quand vous aurez un moment, bien sûr. Je suis joignable au 06. Alors, joignable au 06 77 22 37 12. Voilà. J'ai fait une faute. Voilà. 6. Voilà. Encore bravo. Voilà. 06, c'est bon. Il y a tout. Voilà. C'est fait, c'est officiel. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Ah, le numéro. Ah non. Ah non, le. Ah oui, le numéro. Je l'ai fait à voix haute. Ah merde. C'est pas en direct, on va couper, hein. On va. Comment on fait, on peut faire. Vous clipez pas ça? Hein? Non, c'était pas mon numéro, je suis pas débile. Ah, les jeunes. Ah, vous êtes. Il y en a qui sont. C'est le numéro d'Yann Barthès que je vous ai donné. Voilà, bah non, je suis pas fou quand même, je suis pas fou. Il y a quelqu'un qui a appelé, qui est tombé sur une Sylvie. Oh non, il y en a qui ont essayé. Oh non, vous êtes bête, faut pas appeler. Oh non, vous êtes con. Oh non, arrêtez, stop. C'est pas moi, j'arrête ce stream. Ok, stop, non, j'ai rien dit, c'est pas moi qui ai fait la blague. Arrêtez. Oh. J'adore. Vous êtes bête quand même, hein. Bon, allez, saluons quand même Clarisse Agbenienou. C'est ouf ce qu'elle a fait. Au terme de la quatrième journée de compétition, Clarisse Agbenienou offre donc à la France son premier titre sur ses championnats du monde de judo. Donc c'était hier à Doha au Qatar. Sixième titre de la Française de 30 ans, qui est de loin le plus inattendu, puisque depuis son doublé individuel par équipe mixte en juillet 2021 au JO de Tokyo, la moins de 63 kilos est devenue la maman d'une petite fille. Athéna, c'est un super joli prénom, en juin 2022. Ses seuls points de repère depuis se résumaient à 3 petits combats et une blessure en novembre lors du championnat d'Europe des clubs en Géorgie, à 4 autres en février lors du Grand Chelem de Tel Aviv. Ses ultimes retrouvailles avec le circuit avaient d'ailleurs tourné au cauchemar à l'époque pour... Putain, faut que je vous mette la scène, je suis désolé. Pour la tricolore, privée... Vous connaissez cette histoire ? Privée de son coach par la fédération, à qui elle s'opposait pour pouvoir porter son judogi, son kimono personnel. Voilà. Donc il y avait, je ne vais pas revenir sur le conflit, mais elle voulait porter son équipement, son judogi, aux couleurs de son équipementier à elle, un peu comme Martin, encore merci pour le raid et bonne journée à toi. Allez voir la chaîne de Martin, meilleur DJ ever sur Twitch. Donc elle voulait porter son judogi perso aux couleurs de son équipementier comme l'avait fait Teddy Riner, et puis la fédération lui a dit non et a fini par lui retirer son coach, quoi. Donc grosse bataille, voilà. Donc c'est pas des conditions idéales pour préparer une compétition internationale et notamment un mondial. Elle est tombée au 17e rang mondial, notamment après sa grossesse, avant son entrée en lice lors de ses mondiaux. Grosse revanche, écrit Idriss carrément. Clarissa Agbenienou qui a livré 6 combats en crescendo jusqu'au titre. C'est beau, hein, c'est beau. J'avais dit à ma fille que je lui mettrais la médaille autour du cou, c'est chose faite, réagit à chaud la désormais sextuple championne du monde. Quant au bras de fer avec sa fédération, Clarissa Agbenienou a indiqué ne pas être venue au Qatar pour faire des revanches, a-t-elle dit, et d'être contente d'avoir mis les choses de côté dans sa tête. Moi je dis bravo, bravo, bravo. Donc elle prend date maintenant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 où elle compte conclure sa carrière par une nouvelle médaille dorée. J'adore cette femme, j'adore cette athlète, j'adore cette championne et je dis bravo après ce qu'elle a fait là. Je crois que c'est historique dans ce sport, dans le judo, qu'une judokate arrive à devenir championne du monde aussi peu de temps après une grossesse. Voilà, moi je trouve ça incroyable, je trouve ça super. Voilà. Et est-ce qu'on a, ça se trouve on a déjà une réponse de Clarisse? Non, pas du tout, ce serait drôle. Voilà. En tout cas, c'est envoyé. Avec le numéro. Par contre, j'ai mis le numéro de téléphone de Yann Barthès, ce qui est un peu débile. Bon. C'est super, hein? C'est génial. Hein, ouais. Bel exemple, ma fille l'adore, me dit Caroussi. Ah, j'adore cette femme, je trouve qu'elle a un état d'esprit. Puis en fait, moi, je suis fan depuis que je l'ai interviewée pour France Info. Elle était. On était. Alors, je sais pas d'où elle est, si elle est originaire de La Réunion. Attendez, on va aller voir d'ailleurs. Pose la question. Et en fait, elle était retournée pendant la crise sanitaire dans la région de ses parents et on avait fait le direct de là-bas. Alors, on va voir. Alors, où est-ce que c'était? Alors, son papa est togolais. Ouais, pourtant, elle était dans un territoire d'outre-mer quand je l'ai... Alors, et sa maman, elle est où? Elle me parlait de sa maman. Elle me parlait de sa maman. De toute façon, hyper sympa. Alors. Son papa, c'est un scientifique togolais. Ah, j'ai pas l'info. Elle a grandi à Gennevilliers. Ouais, c'est pas tellement territoire d'outre-mer. Ah, moi, c'était des vacances. Ah ouais. Bon, ben, en tout cas, on avait fait l'interview depuis La Réunion ou je sais plus. Bref, et elle était sympa, et elle était drôle, elle était pleine de vie. Et elle m'avait parlé de sa maman notamment, c'était assez génial, quoi. Voilà, donc c'était top. Oui, peut-être la raison de son mari, peut-être, je sais pas, effectivement, peut-être. En tout cas, c'était super. Donc voilà, depuis, je suis un peu en amour pour cette personne et je serais très heureux de la recevoir sur Twitch de la manière qu'on a reçu Franck Gaston Bide hier soir. Allez voir, c'est en replay, c'est gratuit, c'est sur Twitch. Elle est née à Rennes comme moi. Oh, certains viennent de voir sur la fiche wiki, elle est née à Rennes comme moi. Oh, c'est pour ça qu'elle est top. Mais...
Well, yes.
Yes.
Give me a Y, give me an E, give me a F. Yes.
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 Well, yes. Yes. Yes, 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 yes.
Yes.
C'est pas celui-là que je veux.
Yeah, baby.
Yeah, c'était celui-là. Voilà, c'est pour ça qu'elle est juste géniale. Voilà. C'est parce qu'elle est née à Rennes. Oh, j'ai envie de me faire un café. 11h51, on est large. J'ai rendez-vous pour déjeuner à 12h30. Et je vais me faire une petite pause café, hein, avant de vous parler d'attractivité économique et industrielle de la France avec Le Figaro, du nouveau Zelda qui sort ce soir à minuit. Yes, 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 yes. C'est dans Le Figaro. Un papier dans La Croix sur l'e-sport. On finira avec ça. Double page que j'ai trouvé très passionnante. Peut-être que vous, ça vous semblera un petit peu généraliste et que vous allez corriger ce papier. Mais un très beau papier sur l'e-sport en France aujourd'hui. Deux pages dans La Croix. Pas mal comme petit programme post-café. Allez, je vais me chercher ce petit café là. Info curieuse, est-ce que tu te maquilles sur Twitch, mon dieu, Future Mood? Non, ça c'est mon vrai visage de vrai de vrai. Après, j'ai investi récemment une caméra un peu sympa qui m'a coûté deux bras. Hop, Et j'ai des petites lumières là, mais sinon c'est ma vraie tête sans maquillage. On se fait un petit café, allez vous hydrater, c'est important de s'hydrater. Je vais me faire un petit décaf, moi je me caféine trop en ce moment. Voilà. Ouais. Ah, merci pour le... Ah, c'est trop mignon. Est-ce que tu vas craquer pour acheter Zelda pour Malo? Peut-être. Ah, Macron vient de tweeter sur les attaques. Ok, le dialyse, merci. Merci pour l'info, ça m'intéresse. Je vais voir ça tout de suite. Emmanuel Macron, qui ne me suit sûrement pas en plus, je suis sûr. Pff, incroyable.
if I could only see you now. There's things that I would change around. If I could only see you now, I think I might hold you closer.
Génial ça! Ça s'appelle Going Insane, Duke Evers. Bon, on se met ça de côté, ça nous fera la musique du raid tout à l'heure. Je le trouve très très bien. Ça va? J'ai pris un petit peu le temps parce que j'ai accueilli des invités à l'instant, qui ont un petit peu d'avance, avec qui je déjeune tout à l'heure. Non, Crapkit, ce n'était pas ni la petite ni la grosse commission. C'était un gros café et deux invités à accueillir. Vous, ça va? On finit avec des choses super intéressantes. On est encore ensemble pour 30 minutes. Et avec, en vrai, j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin. Quoique, c'était pas mal déjà les sujets qu'on a. Tasse, double paroi, un homme de goût, écrit Astiras dans le chat. Exactement. Magnifique. Il n'y a pas de honte à faire caca, me dit Alastair. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et j'en parle assez facilement. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je n'ai pas fait caca, ni pipi. Voilà, j'ai juste fait un café. C'est tout. Et c'est tout. Et répondu à l'interphone. Voilà. Apollo Burst, merci pour le Prime. Warscop, merci pour le 11e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Tasse de droite. Pas du tout. Elle est dans ma main gauche. Tech Pike. C'est une vase. C'est un vase, pas une tasse, mais no problemo. Ça, c'est bon.
Well, yes.
J'adore. Julio Franchute, merci pour le 19e mois. La voix qui a déraillé, non, il mue, c'est le passage à l'adolescence. Oui, c'est vrai que je viens de passer 15 ans. Et donc, effectivement, ma voix est en train de changer de tessiture. Bon, c'est pas tout ça. On lit ou on lit pas? On y va? J'ai votre go ou pas? Oui? 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 Non, même pas. Non? Ah, quand même, on y va. Allez. Let's go, c'est parti. Alors, donc j'ai cet article sur l'attractivité économique, industrielle de la France. Macron met en scène les atouts de la France. Là, c'est sûr, étalé sur plusieurs jours en fait. Le Figaro nous explique que le chef de l'État va consacrer ses prochains jours à mettre en valeur le succès de sa politique de reconquête industrielle avec des investisseurs étrangers qui ont plébiscité la France l'an dernier. Vous savez quoi, je vais vous résumer à l'extrême ce sujet parce que j'ai très très envie de parler de Zelda et d'e-sport avec vous. Donc je vous résume ça à l'extrême. Le président Macron, dès son premier mandat, a mis en place une politique pour attirer les investissements étrangers en France, voilà, notamment avec une baisse des impôts, un cadre attrayant, et force est de constater que ça marche puisque la France est aujourd'hui le pays en Union européenne, dans l'Union européenne, qui attire le plus les capitaux étrangers. Donc le président s'en félicite, va s'en féliciter publiquement en cette fin de semaine et lundi prochain aussi pour son fameux sommet Choose France, hein, qui célèbre justement l'attractivité retrouvée de l'économie de notre pays pour les investissements étrangers. Le président Macron nous expliquant que les investissements étrangers, c'est aussi des emplois sur notre sol. Et donc, voilà, c'est une séquence qui s'ouvre aujourd'hui, qui va durer jusqu'à lundi. On aura l'occasion d'y revenir. Je vais un petit peu vite parce que j'ai trop envie de parler de ça, de Zelda. Mais oui, c'est Julien, c'est des amis, nos invités du dernier stream qu'on a fait à la maison. Donc, rappelons-nous, il y avait Julien Chiez, il y avait Moment, il y avait Link, et puis il y avait Zach Dany, qui était à la maison, donc on était vraiment sur un profil quand même très streamer, très gamer, et on a notamment parlé de l'actualité du jeu vidéo, et là, Julien m'a notamment dit, arrive un des jeux vidéo, là, dans les prochains jours, les plus attendus de l'année, sinon le plus attendu de l'année, c'est Zelda. Donc, du coup, j'étais un petit peu au parfum. Une pleine page aujourd'hui dans Le Figaro, page écho, page 25, Zelda, prochain succès en vue pour Nintendo. La distribution s'attend à un lancement record pour ce jeu vidéo exclusif à la console Nintendo Switch. C'est demain, c'est même ce soir à partir de minuit pour les plus pressés. Oui, on y va. Alors, lisons un petit peu ce que dit le Figaro et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, corriger si ça va pas, comme on fait comme d'habitude. C'est l'espoir de nouveaux records de vente pour Nintendo. Le groupe japonais commercialisera vendredi, je le rappelle, dès ce soir minuit, le jeu vidéo Zelda Tears of the Kingdom, dernier opus d'une saga créée en 86 par Shigeru Miyamoto, le père des jeux Super Mario. Au vu des projections des analystes, ce titre devrait figurer haut la main parmi les meilleures ventes de l'année en France. Et au niveau mondial, en France, il pourrait même prétendre au titre du jeu vidéo le plus vendu de cette année. Ouais. Est-ce qu'on a vu leur vidéo de com? Oui, on l'a regardé effectivement il y a 15 jours. Certains ont aimé, d'autres pas, je le vois dans le chat. On continue. Selon nos informations, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires du jeu seront mis en vente dès ce vendredi en France. Plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et pour cause, jamais les niveaux de précommande des consommateurs français n'auront été aussi hauts pour un jeu Nintendo Switch. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui se lamentaient, qui avaient fait des précommandes et qui étaient allés voir où ça en était et qui étaient en train de se dire que ça n'allait pas arriver à temps, qui étaient très très tristes. Je ne sais pas si c'est votre cas. Biboulia, je l'ai précommandé, j'ai hâte de le recevoir. J'espère que tu vas le recevoir très très vite, quand même, idéalement dès demain. Nous pensons que nous écoulerons 100 000 exemplaires du jeu ce week-end dans le réseau Fnac, indique par exemple la directrice multimédia et gaming de Nintendo. Auretrice écrit, alors là j'ignore le souci, précommander, c'est le mal, on le rappelle. Pourquoi c'est pas bien de précommander? C'est quoi le souci? Oh! Il y a Kazeto qui dit ça aussi, c'est ridicule de préco, c'est nul. Pas au courant. C'est quoi l'histoire? Mettez-moi au parfum. Pourquoi c'est pas bien de précommander? Parce qu'on sait pas ce qu'on achète. Ok. Mais à la... Ouais. Ah, les jeux sont souvent buggés à la sortie, des jeux à moitié finis et buggés. Mais je savais pas tout ça, ok. Merci Projet Nemesis, on voit vraiment le mec qui n'y connaît rien et qui va pourtant lancer une émission sur le gaming à la rentrée. On va se régaler, vous allez bien pouvoir vous foutre de ma gueule. Projet Nemesis, c'est pas rare que le produit reçu soit pas à la hauteur. Tu n'as aucune idée de la qualité du jeu, du coup tu peux te faire arnaquer, dit Pépitoumou. C'est quoi ce pseudo Pépitoumou? J'adore. On s'est fait douiller sur certaines précommandes. C'est un piège. T'es un peu un bêta testeur. Ok, maintenant j'ai la ref, j'ai les infos. Ok, je comprends. Merci beaucoup de m'avoir éclairé. Vous êtes super. La Fnac Saint-Lazare, je poursuis l'article du Figaro, va ouvrir exceptionnellement. Oh, c'est Paris, hein, Saint-Lazare. Exceptionnellement ses portes. Je suis en train d'imiter un célèbre streamer. Exceptionnel, une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels pour un contenu exceptionnel. Bon, je l'ai mis très très mal. Donc, exceptionnellement, la gare Saint-Lazare, la FNAC, va ouvrir ses portes cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour les fans qui souhaitent parcourir au plus tôt le royaume d'Irude. Le réseau spécialisé Micromania va faire de même dans 10 magasins répartis dans le pays. Autre indice de l'impatience des joueurs, une édition limitée de la console Nintendo Switch aux couleurs du jeu. Ah oui, j'ai vu ça, effectivement. S'est écoulée à 26 000 exemplaires en une semaine. Ah, c'est ouf, quand même. 26 000 exemplaires de la Nintendo Switch. Ouais. Oh, Solal ! Ah ! Excusez-moi, j'ai mon petit dernier qui vient à la maison. Mais d'abord un bisou. Alors c'est pas le quiz Pokémon, c'est l'alerte enfant. Voici Solal, 3 ans, qui vient nous faire un coucou. Oh, merci pour le bisou. Comment
papa,
ça va
tu... Papa.
Oh, c'est pour moi, c'est un cadeau.
Oui.
C'est... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des chiffres.
Oui.
Un.
Toi et deux. Moi et deux, toi et deux. Toi, maman et quatre, maman et un.
C'est super, c'est toi qui l'as fait.
Oui.
Waouh. Et ça, oh, qu'est-ce que c'est ça?
Et à toi.
Oh, mais qu'est-ce que c'est comme animal?
Et à papillon.
Oh, mais il est trop beau. Avec des chiffres aussi?
Oui.
Et quelle couleur tu as utilisé?
Bonne.
Comme on dit en anglais?
Bien beau.
Yes.
Tout à vous, tu vis beau, tout à vous, tu vis beau.
Ok. Non, je suis content. Je suis content. Tu as vu, j'ai des amis qui sont à la maison, tu as vu, à côté? J'ai deux amis. Tu peux leur dire bonjour si tu veux. Si tu veux.
Non.
Non.
Appuie, bon, no.
Tu veux... Ah oui. Attends. Tu... Vas-y, appuie.
No, bon, no.
Ah, tu veux le no? Ok. Tu préfères le no ou le yes?
Ben, no.
Tu... Ok, tu préfères... No. 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 For the last time. No. No. No.
No.
No. No. And O. Non, 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 non. Le yes maintenant. Solal fait le yes maintenant.
Give me a Y. Give me a E. Give me a Y. Give me a E. Give me a S.
Yes. Yes.
Yes. Oh, yes. Yes, 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 yes.
Yes, yes, yes. Tu vas trop vite. Tu vas.
Papa,
oui.
Un
chocolat, un chocobon.
Oui.
Alors, un chocobon maintenant et un chocolat pour en dessert
non,
tout à l'heure.
Un chocobon.
Un chocolat?
Oui.
Dis-toi okay, Rodélia.
Tout à l'heure, un chocobon, papa.
Ok.
Et tout à l'heure.
Donc, un chocolat maintenant et un chocobon tout à l'heure. Ok. Ok. Tu me fais un bisou?
Mais un chocobon. Mais un chocobon noir.
Ok. Et merci pour les dessins. Merci. Thank you, Rodélia. Trop gentil. Ah, quel petit chou. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai cherché et trouvé ce petit studio de stream à quelques mètres de la maison. C'est qu'en fait, bah, du coup, il y a une clé du studio dans l'entrée de l'appartement. Et mon amoureuse peut passer quand elle veut. Malo peut passer quand il veut. Et Rodélia... Oh, yes! C'est un gros, hein? Thank you, Rodélia. See you. Et Rodélia peut passer avec cela quand elle veut aussi. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, on en était à Zelda, on y retourne, je n'oublie pas. Donc déjà, la console Nintendo Switch aux couleurs du jeu s'est arrachée, 26 000 exemplaires en une semaine, moi je trouve ça c'est quand même assez fou. Belle performance pour une console déjà vendue à plus de 7,3 millions d'exemplaires en France depuis sa sortie en 2017. 7,3 millions d'exemplaires, c'est juste ouf. L'aventurier Link et la princesse Zelda ont également pour mission de soutenir les ventes de la console Switch justement, qui 6 ans après sa sortie entame sa dernière ligne droite de son cycle de vie. Hein, c'est Julien qui nous disait il y a 15 jours que bon ben à un moment Nintendo va devoir quand même proposer une nouvelle console. Voilà. Histoire de gros sous, histoire d'un succès fou quand même celui de Zelda pour Nintendo Switch. Votre avis sur tout ça, vous? Alors, Zelda, fan, pas fan, vous allez acheter, vous avez précommandé. Ah non, c'est vrai que c'est normal. Ok. À quand question pour un champion sur PS5, très bon ça. Switch est une console qui a une super carrière, Money Snack DK, c'est vrai que c'est énorme. Un beau jeu pour une belle fin de la Switch, salut Roulio. Trop hâte, dit de l'homme, cette qui attend son Zelda. Trop hâte de Zelda, oh my god, je ne dors plus, me dit Herolf. Je tremble d'attendre, impatient, je l'attends énormément, vivement demain, j'ai hâte, ce sont des messages que je suis en train de lire sur les starting blocks pour TOTK. Moi aussi, je veux un chocobon, c'est décupé. Non, ça n'est pas possible, il faut que tu passes ici et je ne donne pas mon adresse. Je donne mon numéro de téléphone à tout le monde, mais pas mon adresse. H-12 pour Zelda, ouais, quasiment. 11h40. 47 même pour être précis. Voilà. Je ne précommande jamais, me dit l'Orlaï Panda, sauf pour ce Zelda. C'est fou ça. Hypé comme tous les Zelda depuis 20 ans. Vas-tu jouer au jeu? Alors pas là. Pas là tout de suite. Mais je vous rappelle que je suis en train de travailler d'arrache-pied pour essayer de vous créer une émission. Est-ce qu'elle sera hebdomadaire? Est-ce qu'elle sera bimensuelle à la rentrée de septembre sur le jeu vidéo en mode le teasing étant Papy Sam découvre cet univers fascinant du monde du jeu vidéo avec des passionnés chaque semaine ou deux fois par mois. Immersion dans un jeu, dans un univers, voilà, dans un coin du studio avec un petit décor dédié. Je suis en train d'essayer de trouver des petits moyens pour faire ça. On va se régaler avec un nom d'émission qui a été choisi par vous lors d'un grand concours international intergalactique que nous avons lancé ici, puisque vous avez choisi, vous, le nom de l'émission, et qui est donc Sam Play. Sam Play. Excellent.
Oh, yes.
Voilà, ça c'est grâce à vous. Donc on va faire ça à la rentrée là. Ou peut-être avec peut-être des petites émissions bêta un peu plus tôt. Tu as des consoles? Ben j'ai la Switch de Malo et puis c'est tout. Voilà. Mais on va investir. Ben c'est pour ça qu'il me faut un peu de sous quoi. Donc je suis en train d'essayer de trouver un partenaire. J'espère que ça va se faire. On va tout faire de toute façon pour que ça fonctionne. Et on parle d'e-sport pour terminer, regardez. Avec cette belle double page dans la croix sur l'e-sport. Une espèce de photographie à l'instant T de l'e-sport en France, une discipline en quête de sens. J'ai trouvé que le papier était bien écrit. Papier signé de Benjamin Bousquet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'e-sport, discipline en quête de sens. La Major Counter-Strike, l'une des plus grandes compétitions de jeux vidéo de l'année, a lieu en France du 8 au 21 mai. Le rassemblement met en lumière un secteur qui cherche à se structurer. Après Stockholm, après Rio ou encore Berlin, c'est donc en France que la Major de Counter-Strike, un jeu de tir en vue subjective où le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Rappelons que le public de la Croix n'est pas forcément un public de gamers, donc le journaliste essaye d'expliquer un petit peu. Parmi les plus célèbres jeux vidéo du monde, a posé ses valises jusqu'au 21 mai à l'Accor Arena de Paris. En randonnion sur leurs ordinateurs, venus du monde entier, les joueurs s'affrontent par écran interposé en deux équipes. L'une incarne des terroristes, l'autre des forces spéciales. Ça va à peu près la présentation du jeu par la Croix, ça vous va? Ces sportifs d'un autre genre prennent ces rendez-vous très au sérieux. Ce sont les plus gros tournois. N'importe quel joueur professionnel rêve d'en gagner un. C'est une compétition qui te met une sorte de pression unique, confiée à Mathieu Herbeau, dit Ziou, j'espère que je prononce bien également. L'un des meilleurs joueurs au monde de Counter-Strike, c'est ce qu'il disait à l'équipe Le Quotidien en avril dernier. L'e-sport, qui a longtemps été dénigré par les autres sports en raison de son absence de dimension physique, on en a longuement parlé d'ailleurs, avec Moment, avec Link, avec Julien Chiez et avec Zach lors de la dernière Hebdo Étienne. Cela reste pourtant une discipline où pour être compétitif, le pratiquant doit disposer de capacités psychomotrices endurcies. Il n'y a pas de définition qui fasse consensus sur ce qu'est le sport, et ça j'adore. C'est ce que rappelle Nicolas Besombe, docteur à l'Institut des sciences du sport santé de Paris et ancien vice-président de France e-sport. Et il explique, ce monsieur, on associe beaucoup l'idée de sport aux dépenses énergétiques, à la puissance, au fait de transpirer. On a parlé de judo tout à l'heure avec Clarisse Agbenienou, mais il y a plein d'activités sportives comme le tir par exemple, qui demandent d'autres aptitudes comme la concentration, la dextérité ou la précision. C'est exactement le sujet, le débat que nous avons eu avec nos invités lors de la dernière hebdo Étienne. Hein. Qu'est-ce que le sport? Certains sont un peu coquins et soulignent que la photo d'illustration n'a absolument rien à voir avec le jeu qu'on vient d'évoquer. Bon. Sachant que là, c'est un article sur l'e-sport et pas sur Counter-Strike. Quoi. Voilà. On continue. C'est sans doute davantage par son mode d'organisation. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est des choses que j'avais jamais vues encore. C'est sans doute davantage par son mode d'organisation que l'e-sport reste éloigné du sport. Aujourd'hui, les sports sont régulés par des fédérations, sous la tutelle du ministère des Sports, développe le chercheur qu'on vient d'évoquer. Ce sont des activités non mercantiles à l'origine. Dans l'e-sport, les régulateurs des compétitions ne sont pas les fédérations, mais sont les éditeurs des jeux, qui détiennent la propriété intellectuelle et qui ont des activités commerciales. Pour le chercheur, le modèle fédéral du sport n'est d'ailleurs pas adapté à l'e-sport. Le code du sport dit clairement que la fédération est la détentrice de la propriété intellectuelle du sport en question. Cela serait entrer en conflit avec les éditeurs que de créer une fédération française d'e-sport. Je trouve ça super intéressant. Un constat qui est partagé par l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique entre 2019 et 2022, qui s'appelle Cédric O, qui voit dans la boxe, dans la façon dont est organisé le sport, la boxe, un autre modèle possible pour l'e-sport. Et cet ancien ministre dit, c'est un écosystème fermé qui fonctionne, les vrais combats de boxe sont issus de quoi ? Des ligues privées. Le champion olympique de boxe est moins connu qu'un Mike Tyson, par exemple, qu'on a évoqué hier soir avec Franck Gastambide, ou un Mohamed Ali. Vachement intéressant, vous en pensez quoi de ça sur la spécificité de l'e-sport qui dépend non pas de fédérations, mais des éditeurs de jeux, et que finalement le développement de l'e-sport ferait mieux de se calquer sur le développement d'un sport comme la boxe. C'est pas mal, non? Kéké Bébin écrit « Ils ne sont pas fermés, c'est cool ». Je pense que tu parles de l'article de La Croix. De plus en plus, la presse nationale quotidienne s'intéresse aux jeux vidéo et à l'e-sport. Voilà, Portachard est d'accord. C'est normal, chaque discipline d'e-sport a ses propres règles et ses propres besoins. Voilà, Swood, on peut prendre Smash Bros par exemple, il n'y a que des compétitions faites par la communauté. Alors certains ne sont pas tout à fait d'accord. Je lis plusieurs messages qui sont dans ce sens. Thomas Charmant, pas d'accord parce que les ligues fermées sont très problématiques pour le développement des ligues sur le long terme. Bluff Zito, pas forcément vrai dans tous les cas, avec par exemple l'exemple de Nintendo qui sont des plaies pour ces écosystèmes fragiles. John, faire confiance aux éditeurs, c'est une fausse bonne idée. Confère Smash par exemple. Ah, c'est intéressant. Et Captain Dwight qui me parle de compétitions Smash qui sont bloquées par Nintendo par exemple. Oh. Genre on apprend des trucs. Ok. Et résultat, bah, Smash est pas très gros en e-sport, me dit Anclan par exemple. Ok, cool. Je continue. À la fin des années 90, partout dans le monde, beaucoup de ligues et de compétitions d'e-sport privées ont vu le jour, permettant une plus grande visibilité de cette discipline. S'en est suivi un deuxième virage plus conséquent en 2010 pour voir l'e-sport devenir un réel phénomène de société. Des jeux ont été pensés pour être regardés en plus d'être pratiqués. Et on a assisté, explique le chercheur que nous évoquions tout à l'heure, Nicolas Besombe, à une spectaculaire explosion de l'e-sport. À la même période, donc quelle période on parle hein ? Hop, soyons précis, on est début des années 2010. À la même période, l'émergence de plateformes de diffusion comme YouTube, Justine TV, donc l'ancêtre de Twitch, ou Dailymotion a permis à chacun de suivre les compétitions en quelques clics. Une époque qui marque aussi l'arrivée d'un nouveau modèle économique avec des jeux gratuits comme League of Legends qui ont massifié le nombre de joueurs et de spectateurs. Le modèle très autodidacte du monde de l'e-sport a laissé place à un circuit alors de plus en plus structuré. Les joueurs ont désormais des agents chargés de défendre leurs intérêts. Les professionnels peuvent gagner plusieurs millions d'euros en cas de victoire lors d'un tournoi. Des clubs sportifs comme l'OL ou le Paris Saint-Germain ont créé des équipes dédiées en recrutant un encadrement technique, des coachs, des analystes vidéo, des préparateurs mentaux. Nouvelle manne financière donc ? Eh bien, pas vraiment. Et ça, c'est un aspect très intéressant de cet article. En 2023, on évalue le marché international de l'e-sport, pas du jeu vidéo, de l'e-sport, de la compétition à 1,3 milliards d'euros au niveau mondial. Ça peut paraître beaucoup, un milliard c'est beaucoup, mais ça n'est rien par rapport au marché international du sport qui est compris entre 500 et 700 milliards d'euros. Cédric O, l'ancien ministre, explique « C'est un écosystème qui est marqué par un déséquilibre parce qu'une bonne partie de la valeur est captée par les éditeurs de jeux. Le fait qu'en Europe, les compétitions soient encore diffusées gratuitement sur Twitch, donc comprenez de façon pas payante, contrairement à un match de football, par exemple, où vous devez payer votre stade, votre place dans le stade, ou payer un accès au pay-per-view, par exemple. Eh bien, pour l'ancien ministre, ça, c'est un non-sens. En termes de vous l'avez compris, de monétisation, de création de richesse, quoi. Pour notamment ben, les joueurs d'e-sport et tout l'écosystème qui gravite autour. Et Cédric O, d'ajouter, évidemment, à un moment, ces droits vont se vendre. La publicité y prendra davantage de place pour enrichir ce marché et satisfaire les investisseurs, parce qu'en gros, l'article nous explique qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent, notamment les gens qui créent des équipes d'e-sport, dans cet univers, et à un moment, ils espèrent un retour sur investissement et un retour important, et ça passe, semble penser Cédric O, par la monétisation de contenus qui sont parfois accessibles gratuitement aujourd'hui, comme certaines compétitions accessibles gratuitement sur Twitch. Voilà, ben, ça a déjà commencé puisque Digicode me dit que certaines compétitions de Counter-Strike ont des droits de diffusion payants. C'est intéressant. Donc ça commence, c'est commencé en fait. Donc Cédric O aurait un petit peu de retard. Ok. Quasi toutes les compétitions ont des droits de diffusion, me dit Boudoir. Enclan prend l'exemple d'Étoile, qui me dit que, en me disant que pour que Étoile paye des droits souvent pour Smash par exemple. Ok, donc ce phénomène a commencé. Ah super. Bah, vous voyez, c'est bien ce que je disais, l'article est bien foutu, mais vous le précisez, vous l'amendez, vous le complétez. Les compétitions d'e-sport retransmises dans le monde entier ne comptent pas moins de 495 millions de spectateurs en 2020, c'est énorme. Ce sont des chiffres qui sortent d'un cabinet manifestement américain. En 2019, les finales du championnat du monde de League of Legends ont été plus regardées que le Super Bowl. La France a décidé, un petit cocorico pour terminer, dès 2020 de miser sur l'e-sport en se dotant d'une stratégie à 5 ans pour devenir un grand pays de la discipline. L'impulsion donnée par les pouvoirs publics est assez unique en Europe. Le président de la République avait reçu les acteurs de l'e-sport, avait pour objectif d'accueillir les plus grandes compétitions à l'horizon 2023-2024. C'est désormais le cas, vante Cédric O. La France est la première nation à avoir des lois dédiées à l'e-sport, notamment sur l'encadrement de la pratique et la reconnaissance du statut de joueurs professionnels, approuve Nicolas Beson, donc on serait plutôt bien. Pop, B07C, merci beaucoup. Pour les 5 abonnements offerts à la commune, merci beaucoup Naka pour le Prime, Vernouillet pour le 15e mois d'abonnement, vous êtes formidable. Oui, je sais que j'ai oublié l'horoscope. Bande de coquins, je sais que j'ai oublié. Jamais compris l'e-sport, me dit Coltel, mais on va s'appliquer tous les deux, on va finir par tout bien comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de cet article? C'est plutôt bien foutu, non? Hein? Pour cette double page dans la croix, là. C'est pas mal, hein? Moi, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Benjamin Bousquet est le journaliste qui a écrit ce papier. Ça va, c'est ok. Bon article, me dit Mister Svenja. Ça passe. Adapté pour les non-gamers, mais pas assez clair. Alors n'oubliez pas que La Croix n'est pas un journal spécialisé, bien sûr, et s'adresse à un public qui, pour la plupart de ce public, n'a qu'une vague idée de ce que peut être l'e-sport. Donc le ton est adapté à ce public, quoi. Hein, vous avez bien compris que c'est un article de vulgarisation. Voilà, destination de gens comme moi, par exemple. Voilà, pas dégueu, effectivement, adapté à son public, nous dit Eiji, par exemple. Top. Un article bienveillant, ça fait du bien que ça évolue. Tout à fait d'accord avec Lloyd Lowliet. Pas mal, merci les amis. Bon, allez, on va finir avec l'horoscope que je vous ai pas téléchargé, que je vais aller vous chercher. Par contre, il faut que je vous trouve. C'est le bon horoscope, ça? Ouais. C'est bien l'article. Ouais, c'est jeudi. Il faut que je vous trouve une question pour vous faire jouer parce que, comme vous êtes prévenu, qu'est-ce que je vais pouvoir vous poser comme question? Ok, vous êtes prêts? Le premier qui me donne la bonne réponse avec, en plus, dans la même phrase, son signe astrologique, je lui lis son signe. C'est une question d'actualité. Vous êtes prêts? Dans quelle ville Clarisse Agbenienou vient d'être sacrée pour la 6e fois championne du monde? La ville et votre signe en même temps. Ha 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 ha. Vous êtes prêts? Ah non, petit réconvert d'orage, j'ai allé trop vite. Capricorne, Rennes. Elle est née à Rennes, mais je vous cherchais la ville pour le 6e titre. C'était hier. C'était Doha. Oui, oh oui, Frac, t'as gagné. Mais t'as oublié de mettre ton signe astrologique dans la même phrase. Donc tu n'as pas gagné. C'est non. Ah oui, mais oui. Dommage, Doha était la bonne réponse, mais il fallait mettre le signe. Alors qui m'a donné Doha et son signe? Et c'est Lyon, et c'est Lyon, et c'est Kéké Bébène, j'espère que je prononce bien, voilà, Lyon, Doha, exactement. Et ben c'est Lyon qui gagne, et c'est super, parce que Lyon, on l'a pas lu depuis très longtemps. J'avais promis, prévu de finir ce stream à 12h30, il est 12h28, on est parfait. Lyon, allons-y. Cœur, vous ne serez pas vraiment préoccupé par votre vie sentimentale, vous avez tout à fait le droit. La routine vous convient. Ah ben ouais, voilà. Dans ce domaine, il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez. Non mais, Lyon, pas la ville, Lyon le signe, bande de nounouilles. Réussite. Des événements décisifs et heureux pour votre carrière vont voir le jour. Waouh! En vrai, pour les Lyons, c'est cool, hein? En gros, je résume, en amour, faites comme vous voulez, au niveau du boulot, c'est top. Forme, par contre éviter les excès. Donc Lyon, la folle soirée qui est prévue ce soir avec excès, substances agressives pour les voies digestives ou agressives tout court ou que sais-je encore, vous remettez à plus tard. Hein. Ce soir c'est un verre d'eau pétillante et au lit quoi. Voilà. Concentré sur les projets professionnels. Voilà. Exactement. Voilà, Lyon carriériste et délaisse le reste, résume Anne Vue, exactement. Les amis, un grand merci. Je file parce qu'il est 12h30 et j'ai deux invités à la maison avec qui je vais m'empresser d'aller déjeuner. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait manger aujourd'hui? Je sais pas, on va voir. On va faire évidemment un petit raid. Voilà, hop. Je vous montre les très beaux dessins que Solal m'a déposés. C'est le papillon, parce que je peux, là, maintenant qu'il est parti, je peux vous montrer. Ça, c'est le très joli papillon, ouais, avec un très beau coloriage, voilà. Parfaitement dans les lignes comme vous pouvez le voir, voilà. Ça c'est Solal qui l'a fait, c'est joli hein, donc il a bien respecté le code couleur, vous voyez. Donc le numéro 2 c'était orange, le 3 rouge, le 4 bleu, le 5 bleu foncé, le 6 violet et le 1 jaune. Donc vous voyez que tout le code couleur a été respecté. Je trouve très joli ce papillon, voilà. Et puis alors ça je sais pas ce que c'est, mais alors c'est l'histoire de, voilà, 1, 2, 3 vive à l'Algérie, je sais pas ce que c'est. 1, 2, 3. Voilà, c'est des... Ah ben si, il faut découper et coller au bon endroit. Voilà, donc ça c'est futur médaille Fields, hein, forcément. Voilà, le Nobel des mathématiques, ça c'est évident, regardez. Il a 3 ans, 1, 2, 3, voilà, il le fait en français, en anglais, c'est formidable, c'est Solal, bravo. Voilà, c'est beau, hein. Oui, tout en finesse sur les couleurs, c'est super. Moi je suis d'accord, c'est vrai que c'est un super boulot. Hop, c'est beau, hein. C'est mon fils qui l'a fait. Allez, hop. Tintin, tu bouges pas, on fait un raid. On propose déjà des destinations de raid. Ok. Proposez-moi dans le chat, comme d'habitude. Allez, je suis foufou, je vous mets même pas de petite pause musicale ou publicitaire. Des idées de destination. Ah ouais, je vois les choses qui me plaisent là. Pour le raid. Ok, ouais, allons voir ça. Je viens de voir quelque chose là, qui me plaisait. Ouais, je sais que Tintin a bougé. C'est vrai que c'est l'ami est en live là. Allez, bouge-toi là. Voilà. Hier soir, on a un raid Cheat Meal Hero, notre ami cuisinier notamment. Eric, c'était sympa. Et là, on va raid qui peut être un ami encore, peut-être quelqu'un que vous avez déjà vu à la maison. Oui. Alors, ça n'est pas du tout un petit streamer. Petit, pas en termes de talent, mais en termes de viewers. Vous savez que j'aime plutôt... donner un petit coup de main à ceux qui n'ont pas encore de grosse communauté. Ce n'est pas du tout le cas de ce beau gosse qui est installé depuis de longues années dans le paysage du streaming et du gaming. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps à la maison. Eh bien, on va le raid. Je crois que c'est la première fois que je fais un raid vers lui. Je charge. Hop. les amis, préparez-vous à dire coucou à l'ami Link que nous avons reçu à la maison il y a 15 jours. C'était une super émission. Je me suis régalé et je ne la regrette pas. Allons voir l'ami Link. 2500 viewers sur sa chaîne. Vous êtes très nombreux aussi. Eh bien, vous allez pouvoir renforcer sa jolie commu. Faites coucou à l'ami. On se retrouve demain matin. Hein, demain, c'est vendredi. Demain, hein, petit déjeuner pour moi. Petite siestoune dans la foulée. Un peu de sport. Si j'ai du courage, et demain matin on se régale avec les journaux, et il y aura sûrement un stream aussi dimanche. Samedi, je ne sais pas encore parce que j'ai des projets avec la famille. Ok, c'est en train de charger, ça part dans quelques secondes. Je vous souhaite une belle fin de journée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, et le monde ne s'en portera que mieux. Coucou à Link, c'est parti pour le raid, à demain matin, et merci pour ce matin, je me suis régalé. Merci pour les modos. Ciao.